Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 janvier 2005 de 18 à 21h. En différé jeudi 27 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Je suis très content ce soir parce qu'il fait extrêmement froid, et qu'il y a 12 000 abrutis qui vont se geler les oreilles, c'est le mot que je cherchais, au Parc des Princes. Je les voyais arriver par rafale. Non mais vous savez que vraiment, vous vous rendez compte, par un temps pareil, aller courir en petite culotte sur une pelouse, j'espère qu'il y en a un ou deux qui vont glisser.
Mais eux, ils courent, ceux qui courent, ils sont pas froids.
Et ensuite aller les regarder depuis les tribunes, alors qu'à la télé on voit ça très bien pour ceux qui aiment. Moi j'aime pas ça.
Non plus.
C'est vrai. Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais pas le foot?
Oui, mais on avait cru comprendre.
Et donc, alors ce qui est, où on voit qu'on est vraiment dans un système de folie furieuse, c'est que la police a carrément mis le quartier en... J'allais dire en coupe réglée. Non.
En état de siège.
Vous avez dit qu'ils arrivaient par rafale. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des rafales qui arrivent.
On va en parler justement. Et donc, ils fouillent les gens dans la rue maintenant.
Oui, j'ai vu ça.
J'attendais qu'ils m'arrêtent pour me fouiller. J'aurais pas été déçu du voyage. Je serais pas déplacé pour rien au moins. Voilà. Donc, ça, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de bronchites, même des trucs plus graves. Allez, ça
va. Des voitures brûlées aussi, espérons.
Voitures brûlées.
C'est perdu du jeu.
C'est qui contre qui?
Pas tout de suite.
Après 9h. Bon, alors messieurs,
on a des risques.
On a le droit de brûler, mais pas avant. Moi, je suis dans un parking à 800 mètres. Voilà, tout ça est fort intéressant. Nos chers auditeurs l'auront compris. On va commencer d'ailleurs par des petites annonces. Enfin, par une ou deux petites annonces. Parce qu'après, on les oublie et celles-là, elles sont importantes. Il y en a une, il y a un groupe donc de jeunes, alors je vais employer des mots qu'on aime bien, créatifs, qui se sont investis pour gérer... C'est bien, dans la convivialité, la campagne du non, d'une façon un peu amusante, artistique, intelligente. Hein. J'ai vu quelque chose qu'ils n'ont pas fait, mais quelque chose qui est dans le style de ce qu'ils vont faire, et c'est très très bien. Alors, je m'adresse aux jeunes, Et toi, le jeune qui m'écoute, comme on disait quand on avait 15 ans, vous rappelez, dans les journaux qui s'appelaient Top Réalité Jeunesse. Vous avez lu sa Top Réalité Jeunesse? Vous n'avez jamais, vous n'avez jamais
fait ça? Vogue, moi, je...
Avant déjà Vogue. Ça s'appelait Top Réalité Jeunesse. Et alors on disait, toi le jeune. Il y avait aussi le patron de L'Oréal qui faisait un journal de la collaboration qui s'appelait, il avait une rubrique qui s'appelait Où est les jeunes? Dans lequel il disait dénoncer les résistants. Enfin bon.
C'était dans votre beauté, ça?
Non, c'était avant.
Avant.
Où est les jeunes?
Alors, il travaillait pas, oui.
Où est les jeunes, infographistes, webmaster pratiquant la technologie flash, ça lui dit déjà un mort à Saint-Germain. Hein. Donc infographiste et webmaster, qu'est-ce que vous avez, vous?
Je suis en train de chercher ce que ça peut bien vouloir
non,
dire.
Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est la radio de la France.
L'essentiel, c'est qu'eux comprennent. Vous comprenez?
Oui.
Voilà. C'est comme si je dis short à la radio, il n'y a que les Russes qui comprennent. Mais eux, au moins, ils savent ce que ça veut dire. Donc infographiste, webmaster flash. Alors naturellement, vous n'allez pas faire fortune parce que c'est une campagne politique et en politique, il n'y a que les politiciens qui gagnent de l'argent, les gens qui travaillent pour eux, ils sont bénévoles. Mais là, c'est pour sauver la France.
Il n'y a pas à hésiter.
Donc, si vous êtes infographiste, si vous êtes webmaster flash, vous envoyez un courriel à Euro 2005, parce qu'on dit Euro 2005, mais moi quand j'ai écrit 4 fois 2005 comme 2500, parce que j'ai un nom. Donc c'est pas ça, c'est Euro 2005. Pourquoi vous rigolez?
C'est parce que
c'est confus.
Je suis pas surpris, je comprends rien en plus.
Donc envoyez un courriel à Euro, E-U-R-O 2005, @ hotmail, hotmail.fr. Euro 2005 ou 2005 @hotmail.fr si vous êtes infographiste et quoi?
Et master web, non, je sais pas quoi.
C'est terrible. Déjà, l'école, il était mauvais. Mais...
Master quoi? Master web? Alors, vous dites.
Webmaster Flash.
Master Flash.
Non, webmaster.
Ah ben, mais je suis pourtant que l'institutrice, là, comme moi,
l'institut, elle est larguée. Et alors, il y a une chose qui est beaucoup plus drôle, pour moi, enfin, qui m'intéresse plus, parce que Master Flash, c'est quand même pas tellement Master Flash. Je me sers d'Internet, mais à peu près comme je me sers d'une voiture. C'est-à-dire, je mets une clé, on tourne, ça démarre. Si ça démarre pas, on appelle Europe Assistance. Allô, Europe Assistance, je suis en panne.
Je suis inquiet.
Alors, donc, il y a une chose qui est très, très bien. Il y a une admirable soprane italienne, mais vraiment admirable. Elle a une voix prodigieuse, qui s'appelle Loredana Bernardini, et qui chante avec une autre soprane, qui s'appelle, mais elle, je ne l'ai pas entendue, qui s'appelle Elena Passera, accompagnée par Céline Erican, qui est pianiste, et elles ont organisé un concert cocktail le dimanche 30 janvier à 18h30, à bord de la péniche Daphné. Je dis comme tout, à Marais, quai Montebello, près du pont de l'Archevêché et de Notre-Dame dans Paris, 5e. Et je vous recommande vraiment, parce que j'ai rarement entendu une voix aussi belle, cristalline et intelligente et charnelle que celle de Loredana Bernardini. C'est vraiment magnifique. Donc allez l'écouter, puis après vous pourrez cocktailer. Il faut réserver au 01 30... 36 18 88 01, c'est Paris, 30 36 1888.
Et le prix du triangle?
15 euros le triangle.
Oh, pas cher.
Bon, non, c'est pas cher pour des airs d'opéra, mais il n'y a pas de triangle, il n'y a que piano. Hein. Airs d'opéra, mélodie italienne, chanson napolitaine. Vous savez que le maire de Venise a été obligé d'interdire les chansons napolitaines sur les gondoles? C'est vrai, parce que les gars, ils chantaient plus que ça.
Ils chantaient plus l'air vénitien.
Ben non. Valse de Chopin aussi. Et après, cocktail à bord, et ensuite...
Le cocktail commence à quelle heure?
Alors ça se passe donc à 18h30, le dimanche 30 janvier. Voilà. On va y aller peut-être. Ah, oui. Non, 20h le cocktail.
Et la péniche, elle s'appelle comment?
Daphné.
Daphné.
Jolie Daphné.
Que Montebello. On reste dans...
Bon, ben c'est à peu près les deux salles. Je vous les redirai parce que, voilà, c'est des gens que j'aime bien, il n'y a pas de raison de ne pas les défendre. J'espère que vous n'êtes pas dans le train, parce que si vous êtes dans le train, vous êtes arrêté. Parce que il y a des grèves spontanées de,
ah bon,
de la SNCF qui sont déclenchées parce que une contrôleuse qui a été violée, probablement par un breton, je sais pas.
C'est un breton de l'extrême sud, quand même, peut-être.
Oui, le sud de la Bretagne.
Le sud de la Bretagne.
Et donc, elle a été violée, ce qui est pas drôle du tout, d'ailleurs. J'ai bien de la compassion pour elle, mais je voudrais quand même faire une remarque, je l'ai déjà faite, mais après tout, bis repetita, place sainte. C'est ça, hein, c'est bien. Mm-hmm. Si on fait la grève de la catégorie sur l'âge professionnel à laquelle appartient, là où le violé, chaque fois qu'il y a un ou une violée...
Plus personne va travailler.
On va pas travailler souvent, enfin, je vous le dis, moi. Ça va devenir extrêmement difficile. Et je comprends pas, d'ailleurs, en quoi le fait d'emmerder des millions de voyageurs qui n'ont rien fait, puisque de toute façon le wagon était vide. Alors là, on peut même pas... Enfin, vide à l'exception du violeur et de la violée, quand même. On peut même pas reprocher aux gens de pas être intervenus. Ils n'étaient pas là. C'était une voiture vide que la contrôleuse contrôlait. De se demander si, je sais pas, les places vides avaient leur billet.
C'est pas une histoire comme la dernière fois, là. Non,
attendez, moi, je suis pas de la police. Moi, je répète ce que disent les journaux.
Je sais où téléphoner, tiens, pour savoir. Je sais.
Alors, donc voilà, il y a eu. Et immédiatement, les mecs de la CGT ont dit camarade, on fait la grève.
Ouais.
Bon. Voilà ce que je voulais dire d'une part. D'autre part, il y a un monsieur qui a assassiné, enfin présumé, hein, parce qu'il faut toujours dire présumé. Mmh. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'on dit assassin présumé, alors que selon la loi, c'est l'innocent présumé. On est présumé innocent, on n'est pas présumé coupable.
Ah oui, évidemment.
Bon, mais tant pis, comme on parle plus français dans notre pays, je répète. Donc, un monsieur de 37 ans qui est l'assassin présumé d'une dame qui a été retrouvé découpé en morceaux. C'est un peu l'histoire de la malle. Comment ça s'appelait, la malle à Jouffet, non?
La malle.
La malle sanglante.
La malle sanglante, c'est ça, oui.
Donc il a découpé cette dame. Non, c'est pas dans une malle, c'est dans un réfrigérateur. C'est vrai, il l'a retrouvé découpé dans son réfrigérateur. À Mareuil-les-Maux. Or, ce monsieur, présumé assassin, il y a un truc pour lequel il n'est pas du tout présumé. C'est que, il y a 14 ans, donc en 91, il avait déjà tué une dame du même quartier. Au moins, il a ses habitudes. Et il avait été condamné, donc en 95, à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Seine-et-Marne.
Oui,
peine assortie d'une période de sûreté d'un peu plus de 13 ans. Alors voilà un garçon qui est condamné à 15 ans en 95, à 20 ans en 95, avec une période de sûreté de 13 ans, puisqu'on dit qu'il ne peut pas sortir à la fin de la... Et en 2005, il recommence. Ou les juges ne savent pas compter, ou c'est moi qui suis idiot. Hein. Voilà. Alors, la première, il l'avait quand même, avant de la violer, il l'avait étranglée, puis il l'avait assassiné à coups de marteau et de tournevis.
Et il ne mange pas quand même, non?
Non, il faut dire que c'est pas halal. Hein. Il s'appelle Driss Sadjis, monsieur.
Ah d'accord, parce qu'il aurait pu dire qu'il est devenu végétarien.
C'est un habitant de Montreuil, Mareuil-les-Maux, c'est un Mareuillais.
Un Mareuillais.
Voilà.
Là, c'est bien.
C'est intéressant. Et alors...
C'était la
malle
à gouffer, on vous dit.
La malle à gouffer, voilà.
Voilà, c'est ça. Les auditeurs savent tout.
Bah oui. Je sais même pas pourquoi je fais cette émission, d'ailleurs, parce que vraiment, ça sert à rien. Ils en savent 50 000 fois de plus que moi.
Bah si ça sert, on apprend quelque chose.
Bien. Alors, monsieur Driss Sadji, je voudrais pas être le juge d'application des peines qu'il a remis en liberté.
On risque rien du tout.
Encore une fois, c'est fabuleux, parce que prenez l'exemple par exemple, l'autre jour, il y a eu un accident d'un autocar.
Oui,
l'autocar a été gêné dans sa circulation par une voiture et il s'est mis dans le décor. On a découvert que le chauffeur de l'autocar a 70 ans. Alors on a évidemment immédiatement décidé qu'à partir de 60 ans, il faudrait passer une visite médicale tous les ans. Parce que si à 70 ans vous avez un accident, mais à ce moment-là, si vous avez 18 ans, étant donné que c'est les jeunes qui n'ont plus d'accident, il faudrait passer une visite médicale tous les matins avant de prendre le volant.
Moi, je pense qu'il y a des juges d'instruction, et j'en connais personnellement, à qui on devrait faire passer un permis de conduire l'instruction.
Oui, ça c'est sûr. D'abord, moi je considère qu'on ne devrait pas pouvoir être magistrat avant 50 ans. C'est un métier de vieux, magistrat. Il faut avoir fait les 100 coups pour comprendre.
Ou alors être né, il faut revenir à l'ancien régime.
Ou alors être né, bien sûr. Comment ça être né? Notre Dieu devant vous. Franchement, en ce moment, je trouve ça assez déplacé, votre propos, là. Le Front National communique, Madame Burgaz a été condamnée pour avoir dénoncé les difficultés de cohabitation des communautés dans les banlieues. et pour avoir dénoncé les propos de haine anti-française du groupe Ministère Amer qui dit que... ouais. Alors elle a été condamnée. Et donc c'est une dame de chez Gollnisch, madame Gollnisch. Oui. Alors Gollnisch écrit, parce que lui il est pas du genre à mettre pavillon bas, hein. Il dit, il est particulièrement scandaleux que dans cette persécution, les élus UMP-UDF aient joint leur vote à ceux des sociaux-communistes. Mais c'est pas étonnant, ajoute-t-il quand même, parce qu'il est pas totalement naïf, hein. Bon. Puisque les partis du système sont co-responsables de la situation dégradée de millions de nos compatriotes, ils ne vivent pas, eux, dans les quartiers, ils sont incapables de porter des solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Ils n'y parviendront pas plus avec Madame Burgas qu'avec... Alors donc, ils esquivent le débat lâchement et utilisent les tribunaux dans l'espoir d'étouffer toute contestation. C'est vrai, c'est quand même fantastique. J'écoutais tout à l'heure l'émission de Griotret sur Courtoisie avec ce jeune français d'origine iranienne qui a écrit un bouquin qui a l'air passionnant sur les islamistes. Je me disais, c'est quand même extraordinaire parce qu'il est très courageux, il dit des choses, mais à mon avis, s'il est comme moi, il va aller tout droit en prison sans passer par la case départ. Parce qu'il a dit, il appelle des terroristes c'est quand même extraordinaire.
Oh là là, ouais.
Ouais. Non mais c'est, je pense qu'il va avoir des, enfin j'espère que non, mais... Et Gollnisch conclut en disant, nous ne nous tairons pas. Donc il faut dire que croire qu'on va faire taire Gollnisch, à mon avis, c'est une erreur stratégique grave. Hein. Voilà ce que je voulais dire aussi à part ça.
À part ça, vous avez un auditeur qui vous dit, dans le sud de la Bretagne, il y a un contributeur au moins important à Radio Courtoisie. Alors, monsieur le Betketch, mollo sur le sud de la Bretagne.
Lequel contributeur important? JMLP, non, il ne contribue pas, JMLP.
C'est notre auditeur.
Ah oui, mais non, mais quand je parle du sud de la Bretagne, c'est le sud, hein.
Bah oui,
le sud.
Très au sud.
Ah ouais, vraiment.
La Méditerranée, quoi.
Bah la Méditerranée, c'est une rivière qui coule au sud de la Bretagne.
Voilà.
C'est cela même. Et puis alors, j'avais des choses à vous dire sur Marine Le Pen, mais je vais m'abstenir puisque Pierre Descaves étant là, je vais garder de Conrart le silence prudent. Parce que dans le dernier numéro du Libre Journal, j'écris que j'ai gardé de Conrad le silence prudent. Lapsus calamiteux, calamiteux surtout.
Mal relu ce journal.
J'en présente mes excuses aux lecteurs, aux lecteurs. Tu avais remarqué la faute, Pierre?
Pas du tout, non, je t'écoute.
Je reconnais bien l'attente. Il faut que tu parles bien dans le micro.
Oui, je t'écoute simplement.
Bien
je ne sais pas si tu as des choses à dire concernant X ou Y. Moi, je ne suis pas pour la censure. Tu fais ce que tu veux.
Non, non, moi, je veux simplement que... Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de chance, quoi, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'elle a fait... Elle a dit clairement qu'elle n'était pas du tout d'accord avec Gollnisch quand il a fait ses déclarations.
Et
puis alors après, elle n'a pas voulu se répéter, mais il faut la comprendre. Hein. Là, c'est pas la peine de répéter trois ou quatre fois la même chose. Donc elle est partie à la Trinité. Voilà. Elle a pris des vacances. Mais non, mais c'est surtout qu'elle dit que... c'est pas elle qui le dit, d'ailleurs. C'est un des membres de son entourage qui dit que... elle réfléchit sur sa présence au bureau politique. Il y en a d'autres aussi qui ont réfléchi avant elle, d'ailleurs, sur cette question-là. Et elle a décidé d'observer le silence vis-à-vis de la presse. Toujours temps pour bien faire. Et qu'elle a commencé la rédaction d'un livre dans lequel elle développera un certain nombre de sujets. C'est une bonne nouvelle.
Donc elle va à la Trinité, elle prend pas le large apparemment.
Non. Et donnera sa vision de ce qui doit être la stratégie du Front National. C'est très bien, c'est Louis Alliot qui dit ça, conseiller régional de Midi-Pyrénées. Et c'est très très bien, je suis très content. Il paraît qu'elle est furieuse, nous dit Madame Chambaud dans Le Monde. Après la lecture des propos tenus par son père qu'elle a découvert dès la parution de Rivarol, elle avait fait le gros dos en espérant que personne ne les relève. Ben c'est Chambaud qui écrit ça. Hein. Moi, je dis rien, je contente de lire. Hein.
Ils ont dit la même chose à France Inter. Mais...
Elle ne sait pas que Rivarol a 30 000 lecteurs, non, mais... parmi lesquels probablement un ou deux journalistes du Monde.
Oui.
Je ne savais pas qu'on faisait des confidences à Chambaud, moi. Enfin, moi, j'en fais jamais.
Ben non, moi non plus, mais...
Ni à Chambaud, ni à personne d'autre.
C'est tout le problème. Il y a des gens qui font des confidences à Rivarol, il y en a d'autres qui les font au Monde. On choisit ses confidences. Moi, je préfère Rivarol. D'ailleurs, si elle avait fait que des confidences au Monde, je l'aurais jamais su, puisque je ne les lis jamais. Mmh. Voilà. Sauf le mercredi, de temps en temps, pour trouver un truc rigolo à dire.
Il aurait pu les faire au Libre Journal.
Mais depuis, oui, c'est vrai, d'ailleurs. Oui. Alors, voilà, Marine est bien gentille, mais sa stratégie de dédiabolisation ne nous a rien rapporté. Les médias nous ignorent, un front gentil, ça n'intéresse personne, annonçait M. Le Pen au journaliste du Nouvel Observateur, qui l'interrogeait lors de ses vœux à la presse le lundi 17 janvier. Il est quand même drôlement poilu, hein. Il cale pas, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas cherché le scandale pour briser l'omerta, mais reconnaissez que ça marche, a-t-il ajouté.
C'est pas mal.
Il est formidable. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. L'affrontement était impossible. Elle ne peut que combattre publiquement son père et faire ainsi le jeu de ceux qui veulent le déstabiliser au sein de l'appareil, explique un membre de Génération Le Pen. Attention, les mecs de Génération Le Pen, ils ont plusieurs neurones, hein. Ça se sent quand même. C'est des fins analystes politiques.
Mais ils sont au Front National ou ils n'y sont pas?
Ça dépend.
Ça dépend des jours.
S'il fait du vent, s'il pleut.
Il tourne autour.
Voilà. L'association que préside Marine Le Pen et qu'elle a choisi de mettre en sommeil. Elle parle à Trinité et elle dit on se reverra pas que vous... Voilà.
Son père calera pas, mais elle a fond de cale. Ouais.
Elle laisse pour le moment à ses lieutenants. Alors, à ses lieutenants.
Mon Dieu.
Je laisse à mes lieutenants le soin de défendre au sein du parti le courant moderne face aux anciens.
Merci. Représenté par Bruno Gollnisch. C'est quand même fabuleux. Le courant des anciens, Pierre.
Hein? Merci. Mais moi, je ne réponds pas à ces imbécilités.
Non, il ne faut pas répondre, mais enfin, c'est rigolo quand même. On peut... Le délégué général qui brigue la succession de M. Le Pen à la tête du FN, il brigue rien. Il est là, c'est tout. Il n'y a pas un bon. Un Bruno Gollnisch qui boit aujourd'hui du petit lait, oui, ça j'imagine qu'il doit être assez moyennement malheureux quand même. Bon, allez, on arrête parce qu'on va devenir désagréable. Et je ne veux pas l'être, à aucun prix. Messieurs, merci de m'avoir écouté. C'est tout ce que... Donc, je rappelle donc qu'on cherche des infographistes et webmaster flash. Il faut. Ça, c'est bon pour les jeunes de Génération Le Pen, par exemple. Comme vous n'avez plus de boulot maintenant, puisque la tôle est en sommeil, vous téléphonez, enfin, vous envoyez un message à euro2005@hotmail.fr et vous dites je suis infographiste ou webmaster flash.
Et c'est pour le nom.
Et voilà, c'est pour le nom, c'est pour le oui. Si c'est pour le oui, il faut écrire à Chirac. Là, j'ai pas d'adresse. Il est le seul à être pour le oui à la Costa.
Qui c'est qu'encore dit non le professeur Cabrol, sur Courtoisie, a dit non. Alors bon, tiens.
On va faire un grand parti, celui qui ira de Fabius à Le Pen.
Ça sera l'union des noms.
Plus loin que Fabius.
À gauche.
Ben, il y a les communistes et il y a lutte ouvrière. Ou l'autre, là, les travailleurs.
La Ligue communiste révolutionnaire.
Oui, la Ligue. Non, il y a...
C'est bien, nous voilà sauvés alors.
Voilà, de toute manière, l'extrême droite est sauvée puisqu'il n'y a pas qu'elle dans la course.
Il n'y a personne n'est d'extrême droite, ça n'existe pas. L'extrême droite, c'est un mot inventé pour blesser les gens en faisant croire qu'ils pensent comme moi.
Il y en a qui s'en foutent, ils ne savent pas. Mais ils devraient le savoir. Hein. Alors,
on va donner la parole au docteur Dor qui n'est pas d'extrême droite. Mais...
Ah non.
Qui est d'extrême vie. Comment ça s'est passé alors, cette manifestation?
Vous y étiez, je ne sais pas. Enfin... Mais c'était un succès, il faisait beau, c'est vrai, et il y avait, alors d'après les organisateurs, 15 000, ça, je pense que c'est trop, d'après la police, 3 400, ça je pense que c'est nettement inférieur, non je pense que c'était de l'ordre de 7 000, 8 000, peut-être plus même, c'était superbe, il y avait donc beaucoup de monde, beaucoup de jeunesse, c'est ça qui est le plus frappant, des garçons même de 13, 14, 15, 16, 10, enfin, vraiment, alors nous étions en queue de cortège, puisqu'on nous prions. Lyon, il y avait Saint-Nicolas, il y avait deux quarts de Lyon, un quart de Mayenne, enfin c'était un quart de Nantes. Enfin nous étions vraiment assez nombreux.
Vous êtes content là.
Oui, ah oui, nous étions, tout le monde était ravi.
Attendez, vous êtes partie prenante dans l'affaire puisque vous avez fait partie des organisateurs. Mais moi j'ai au téléphone quelqu'un qui a été un témoin simplement.
Ah bon.
Donc on va voir s'il dit comme vous parce que je me méfie maintenant, vous savez.
Ah bon, très bien.
Je vais chausser vos casques, vous mettez-les autour de votre tête, c'est comme vous voulez. Allô.
Allô, allô.
Bonsoir, Monsieur Goffman, comment allez-vous?
De mieux en mieux, Serge de Becquet. Je salue vos invités, vos auditeurs innombrables. presque aussi innombrables que les participants à la manifestation dont vous venez de parler. Moi, j'ai vraiment pas pu compter les manifestants. Hein. J'ai compté seulement...
Vous êtes comme les policiers, vous savez compter jusqu'à 3000 quand c'est à droite.
J'ai compté jusqu'à 60, c'est le nombre de personnes qui, n'étant pas encore abonnées au Libre Journal, me l'ont acheté. Et je peux simplement dire, parce que tout le monde connaît la place de l'Opéra dans le monde entier, la place de l'Opéra était plus que pleine, elle débordait. Alors, si ça fait 3000 ou 15000, je n'en sais rien, mais tout le monde connaît la place de l'Opéra à Paris, et elle était plus que pleine.
Donc vous confirmez les propos du docteur Dor?
Certainement, oui, sans hésiter.
Non, mais c'est important parce qu'il faut avoir deux sons de carillon.
C'est bien simple, Serge Beckett. Je crois savoir, en ma qualité de secrétaire de rédaction, qu'on va publier une photo.
Attendez, il faut que je dise au docteur de mettre le... Oui, mettez le casque, parce que ce que vous faites là, ça fait venir immédiatement M. Larsen. Vous savez, M. Larsen qui siffle. Larsen lui plaît, bien entendu.
Larsen n'est pas invité.
Oui.
Et... on va publier, je pense, hein, une photographie panoramique dans le Libre Journal, sur en grand format, et les gens, les amateurs de chiffres pourront compter les têtes et multiplier par 3.
Mm-hmm.
Serge de Beckett, je suis obligé de dénoncer à ceux qui ne l'ont pas remarqué tout à l'heure votre snobisme. Parce que vous parlez de webmaster, vous faites semblant de ne pas savoir ce que c'est, de ne pas savoir qu'en français on dit webmestre, et vous faites semblant de nier votre dette de reconnaissance au camarade Lefrancien, qui a brillamment rétabli le site internet du Libre Journal, francecourtoise.info. On a eu le regret la semaine dernière de dire qu'il était suspendu. Il est rétabli, et c'est une information précieuse pour les avaricieux ou les économes qui voudraient faire la connaissance gratuitement du Libre Journal. francecourtoise.info, grâce à notre webmestre, Lefrancien, est rétabli. Et voilà la première nouvelle du Libre Journal que je voulais donner. Et ensuite, pour être rapide, donc nous venons de publier le numéro 340 du Libre Journal papier, donc à la une, comme c'est paru le 21 janvier, anniversaire de son exécution, nous avons un très beau portrait de Louis XVI, le roi martyr. Les commentaires que vous venez de faire sur les... récents événements autour du Front National et des propos... des dérapages supposés des uns et des autres, naturellement nous y revenons avec précision et avec éloquence dans l'éditorial. Nous avons plusieurs exclusivités, et en particulier, je mets au défi les lecteurs, les auditeurs de trouver ça dans un autre journal, nous publions la date exacte de la création du monde. C'est dans le Libre Journal numéro 340 et nulle part ailleurs.
Mais oui, c'est vrai, c'est un papier de Laurent Glozy qui est un excellent papier sur le créationnisme.
Et parfaitement irréfutable.
Ben, comme l'éléphant, qui lui aussi est irréfutable, on le sait depuis Vialatte.
Nous avons, nous faisons le point, bien entendu, sur l'affaire Golnisch à Lyon et en d'autres lieux, sous le titre « Une pointe d'épingle quelque part pour Perben ». Et nous avons une autre exclusivité, c'est le témoignage tout à fait exclusif d'un ami de Maxime Brunnery, qui a été témoin du procès et qui nous fournit des détails qu'il n'a pas eu à fournir ailleurs, donc exclusivement pour les lecteurs du Libre Journal. Voilà. Je terminerai en si vous
il y a toujours il faut quand même indiquer qu'il y a la suite des aventures des présidents de la République par François Brignot.
Oui. Et
là c'est très passionnant, je trouve, moi c'est
d'abord. On est au président Nobrun. Et c'est tout à fait passionnant. D'ailleurs, dans sa page, Brignot annonce propose les derniers exemplaires de son ouvrage qui s'intitule La Fresne au temps de Robert Brasillach. Donc, dans le Libre Journal, on a les moyens de se le procurer par correspondance.
Nous avons les moyens de vous le faire acheter.
Voilà. Ah, comme c'est exclusivement par correspondance, c'est quand même mieux d'avoir le Libre Journal sous les yeux. Le marquis oublie épargne pour cette fois, messieurs BHL et Clavier. Non, comment s'appelle-t-il, son rival, son odieux rival?
Carlier,
pardon. Mais sa chronique continue.
Il lui rend quelques kilos quand même, hein. Quelques quintaux, je veux dire.
Ouais. Sous le titre Grésil au Brésil, misère en misère. c'est de plus en plus euphonique, la chronique.
Euphonique et euphorique. Vous nous en parlerez tout à l'heure, Marquis, des suites de cet article.
Ah bah oui,
Bon, il nous fera une confidence assez rigolote.
Si tous les gens qui ont une photocopie s'abonnaient, je peux te dire qu'on gagnerait des sous.
Alors, je n'en dirai pas plus. Je terminerai par une nouvelle personnelle, si vous permettez. Je viens d'avoir un coup de fil de mon éditeur Philippe Randa, qui m'annonce que il vient de faire paraître et il m'expédie quelques exemplaires du recueil de mes chroniques qui s'intitule « Diverses droites » et qui va être également donc annoncé, je le suppose du moins, dans le Libre Journal.
Ça, parce que moi, j'aime pas trop faire du copinage, hein, mais enfin, on verra.
Heureusement, je me suis servi moi-même.
Merci, Patrick.
Voilà, je donne nos références quand même. Donc, on se procure ce numéro 340 ou un autre spécimen. On s'abonne pour un... Donc, le spécimen, 5 euros ou un carnet de timbres. L'abonnement pour un an, c'est toujours 110 euros seulement. À SDB, c'est l'ordre et c'est l'adresse, c'est tout simple. SDB, 4 places France Liszt, 75-010 Paris.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À bientôt, Patrick. Alors, docteur, donc, maintenant que vous avez... on a la confirmation que vous êtes un homme honnête et véridique, je vous rends la parole, donc.
Voilà, très bien. C'était une... À mon avis, la situation n'est pas la même avant et après. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc un pouvoir de mobilisation en France qui est réel. Et alors, je dois signaler à ce propos qu'il n'y avait... il y avait une dizaine d'associations qui étaient donc organisatrices. Nous-mêmes, nous n'étions pas vraiment organisateurs, on participait. Bon, mais ceci pour dire que ni les politiques ni les religieux nous ont aidés. Au contraire, enfin, les politiques n'ont rien dit, et même ceux qui sont de l'autre bord n'ont rien dit. Et alors là, ils se sont, je trouve, comportés un peu de façon politiquement correcte. Et là, à mon avis, ils ont tort. Pourquoi ? Parce que je pense que l'avortement, la lutte contre l'avortement, est porteuse. On le voit aux États-Unis. Il y a une vague là qui est une espèce de tsunami qui est en train de se faire, et dans 10 ans, quand les gens diront qu'ils sont pour l'avortement, ceux-là paraîtront tout à fait déçués, misérables, je dirais charognards. Et je pense que, je l'ai dit à Gollnisch d'ailleurs, il n'a pas dit non, je pense que si par exemple Louis de Villiers, qu'on peut vraiment estimer, il ne parle pas de l'avortement depuis 95, je pense que s'il commence à en parler, là il va faire un tabac.
Villiers, il ne faut pas trop lui en demander quand même. Je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que c'est le seul homme politique depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années qui, à cette antenne, pas dans mon émission, mais dans l'émission, je crois que c'est l'émission du Rien, oui, de Yannick, a eu le courage de dire, quand on lui a dit, mais qui sont les responsables de ça, il a dit, je peux le dire.
Ah, il a
dit. Vous voulez que je le dise?
Ah oui.
Je peux vraiment le dire?
Ah, oui.
Ce sont les francs-maçons.
Oui, oui, ça, honneur
à lui. Je veux dire, j'étais en train d'écouter son émission, je suis tombé par terre. J'ai dit, mais c'est incroyable.
Oui, non, ça, honneur à lui.
Il est vraiment gonflé.
Oui, non, il est courageux.
Personne n'a
à mon avis, il est de plus en plus courageux.
Ah oui. Alors, bon, je suis pas devenu sans trop villiériste pour autant, mais enfin, quand même, il mérite un coup de chance.
Enfin, je crois, c'est vrai. Mais je crois que les politiques ont tout intérêt à se pencher sur ce problème crucial. On tue 2000 enfants par jour. Je ne dis pas de bêtises en disant ça, hélas. Enfin, et enfin, j'aimerais dire une bêtise, mais hélas, ce n'est pas une bêtise. 2000 enfants par jour, on est dans un bain de sang. Et alors, pire que le politiquement correct, je trouve, c'est évidemment, vous l'avez compris, le religieusement correct. C'est-à-dire nos évêques, évidemment, qui n'ont pas voulu cautionner cette manifestation, alors qu'elle était, je dirais, il y avait même des protestants dans l'affaire. Or, ils aiment assez l'écuménisme, des choses comme ça. Ça, je ne comprends pas. Il y avait donc une dizaine d'associations. C'était pas, on peut aimer ou ne moins aimer certaines, je comprends très bien ça, mais là, vraiment, ils avaient plutôt le choix, etc. Rien, et non seulement ça, mais quand on demandait de mettre des affiches dans les paroisses, ils ne voulaient pas. Donc il y a vraiment un refus, et je ne comprends pas, et c'est d'autant plus incompréhensible que lorsqu'à la Toussaint, Mgr Lustiger, il a très bien fait, qui peut dire le contraire, a voulu mobiliser contre le Halloween, et comment dire, faire retentir les fêtes chrétiennes, mais d'ailleurs c'était parfait, je n'ai rien à dire, il a mobilisé 100 000 personnes, et là combien étions-nous, n'est-ce pas, nous étions je dirais 6 fois, 7 fois moins nombreux. Donc je dirais, si les évêques veulent s'en donner la peine, mais ils ont ce pouvoir, je dirais. Alors il me vient aux lèvres cette phrase que, comment dire, j'y pensais en venant ici, bien sûr, cette phrase de Jeanne d'Arc à l'évêque Cochon. Évêque, je meurs de par vous. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le courage de monter au créneau, peut-être pas spécialement pour nos manifestations, les nôtres ou celles qui sont même de collectifs, tout ça, mais si eux-mêmes lancent une manifestation, mais nous serons les premiers à y aller, peut-être ils nous repousseront, je ne sais pas. Mais enfin, on sera là en périphérie, ça ne fait rien. On sera certainement avec eux. Mais grâce qu'ils se lancent là-dedans, les AFC. Alors, les AFC n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, mais même ils disaient il ne faut pas. Mais c'est incompréhensible. Alors là, on se demande encore s'il n'y a pas de la franc-maçonnerie par-dessous.
Les AFC,
associations familiales catholiques, n'est-ce pas? Et alors, il y a des présidents très bien, il y a des évêques très bien aussi. Mais je dirais, comment se fait-il qu'on n'ait pas ces voix-là, ces voix dites catholiques, devraient être là au premier rang? Pas du tout. Alors là, je dirais, ce n'est pas moi qui jugerai là-haut, bien entendu, je commence à me faire vieux, mais je dirais, ils ne pourront pas, Dieu leur demandera, mais je pense qu'il c'est dit dans l'évangile, les petits, il faut les défendre, et si on ne défend pas les petits, il aura du mal à nous recevoir, mais que les élèves se précipitent dans ces manifestations, au contraire, et là, je vous assure, ils seront bien reçus par des acclamations, il y avait une ambiance dans les...
Vous êtes en train de supposer qu'ils croient en Dieu, carrément.
Alors, je pense qu'ils croient en Dieu.
Ah bon?
Je crois. Mais voilà, ils s'acclimatent un peu trop. Ils s'acclimatent un peu trop.
Ah oui.
Au pouvoir.
Ils croient en là, ils croient. Et donc, ils font des cérémonies œcuméniques. Par exemple, là, dans ma paroisse, je suis allé dimanche à la messe. On nous a distribué des petits bouts de papier et j'ai découvert que, au cours d'un voyage paroissial qui s'est déroulé à Rouen, je crois, le récit de ce voyage paroissial à Rouen dit. Nous avons pu assister à une belle messe présidée par plusieurs prêtres. D'abord, il n'y a qu'un prêtre qui préside. Elle peut être concélébrée, mais présidée par plusieurs prêtres, ça devait être un beau bins, leur truc. Bon, enfin bref, dont une pasteure, P-E-U-R-E bien entendu, qui a dit l'homélie. Alors la prochaine fois, on fera ça avec le Dalai Lama. Qui va l'éviter.
Dimanche, la messe télévisée, dimanche n'était pas la messe télévisée, à 11h à la place de la messe, c'était une cérémonie œcuménique. Voilà. Dimanche, à la télévision, c'était une messe œcuménique.
Voilà, donc moi je dis qu'ils ne croient pas en Dieu, les évêques. Enfin, la plupart, ils n'y croient pas.
Je crois que tout chrétien.
Que Gaillot qui y croit.
Doit penser à la conversion, n'est-ce pas? Conversion de soi-même, bien entendu, et puis conversion des autres, ouais. Mais à la vérité, pas à n'importe quoi, évidemment. Ça va naturellement.
Alors,
voilà, donc pire que le politiquement correct, le religieusement correct. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est d'un ordre plus élevé. C'est d'un ordre plus élevé. Dieu demandera plus aux évêques qu'aux politiques. Il demandera plus à Montgomery Figé qu'à Chirac. Moi, je pense. Je ne sais pas comment sont les choses, il va y avoir
une explication de gravure sérieuse. Là, quand
mais voilà. Mais il faut prier, encore une fois, nous prions pour tout le monde. Personne n'est exclu. Alors, je voulais donc... je vous dis
alors, vous allez récidiver, donc.
Bien entendu, ça, je dirais, au Avignon, que je vous dis une toute petite chose sur Avignon, il y avait une manifestation le 15, organisée par un garçon de 17 ans. Et il y avait là deux chapitres qui vont de Paris à Chartres, Saint-Agricole, Sainte-Madeleine. Il y avait là une petite école, mais école hors contrat, tout le monde était là, la directrice, les professeurs et tout ça. Nous étions plus de 100. Il y avait un homme qui était là avec 10 enfants. En fait, il en a 13, mais 2 étaient au couvent. Donc, il ne pouvait pas venir. Il a en fait 13 enfants et 10 étaient là. Une était à Lyon pour ses études. Mais sa femme était là. Ils étaient 12 à eux seuls. Admirable. Et alors, une petite jeune fille de 16 ans, parce qu'ils avaient tous, souvent, enfin, pas moi évidemment, mais beaucoup avaient 15, 16, 17 ans. Eh bien, c'est curieux. Enfin, moi, il faut multiplier un petit peu.
Vous avez plusieurs fois.
Enfin, je ne vous dirai pas exactement, mais donc, en face, alors, elle avait remarqué, cette petite jeune fille, Victoria, avait remarqué qu'en face, il n'y avait rien. Les malheureux, ils étaient une centaine. D'ailleurs, ils faisaient peur aux petits. Nous, on avait des petits garçons de 9, 10 ans qui pleuraient. Et quand on a dit ça à Don Gérard, il a dit, oh, ça, les larmes des enfants, c'est la grâce. Et alors, je suis persuadé que c'était la grâce, mais évidemment pas pour les gens en face, pour lesquels on a prié, bien entendu. Et là, c'était triste, toujours des gens âgés, mais évidemment, l'avortement, il n'y a pas d'enfant, c'est par définition. Alors, vraiment, ils devraient le voir eux-mêmes. Ça, c'était... Enfin, bon. Voilà. Donc, on ne peut pas oublier Avignon et aussi à Grenoble. Enfin, là, nous allons faire une manifestation le 5 à la Bourse, à 14h30, devant le planning, qui est donc, là, comme vous le savez, l'organisation qui, au monde, tue le plus, n'est-ce pas, en France et puis ailleurs. Bon, nous serons donc là, dans cette perspective de... Et alors, vous savez aussi, je veux dire, que, vous le savez certainement, à Washington, c'était le 24, je crois, le jour même de la manifestation, je ne sais plus exactement, nous étions le 23, eux, c'était peut-être le 24. Eh bien, ils étaient 100 000. Il y avait là l'archevêque d'Atlanta, honneur aux évêques américains, l'archevêque d'Atlanta était là. Il y avait 7 cars, je crois, qui venaient de, je ne sais plus, de Saint-Louis, je crois, 7 cars. Mon Dieu, nous, il y avait 2 cars qui venaient de Lyon, mais vous voyez, peut-être Saint-Louis moins peuplé ou plus peuplé que Lyon, je ne sais pas. Mais en fait, voilà, les Américains nous donnent une leçon. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre d'eux, n'est-ce pas, dans le respect de la vie, dans l'amour de Dieu, parce que tout se tient, bien entendu. Voilà, alors
Donc le prochain rendez-vous.
Le prochain rendez-vous, venez en rang serré, justement. Venez peut-être à 7000, je n'ose pas le dire, évidemment. Mais Saint-Nicolas, maintenant, vient en rang serré.
Place de la Bourse.
Notre-Dame-du-Lys, tout ça. Alors, place de la Bourse, et ils seront bien reçus. Croyez-moi, il y aura aussi les gauchistes, attention. Mais la police impeccable. Ça, alors, honneur à la police. Si je ne vous ai pas dit qu'à la manifestation, ça avait été impeccable. La police impeccable. Vraiment, mais comme à chaque fois maintenant, ça veut dire des félicitations. Je ne sais pas, ils y mettent presque un point d'honneur.
Mais il faut les comprendre. Ils se disent, si l'avortement continue, on n'aura plus de jeunes pour taper dessus dans quelques années. Donc, ils défendent leur distinct.
Enfin, je crois deviner les penchants de la police. Enfin, je n'en sais pas plus. Parce
vous croyez ça, vous?
Oui, oui. Enfin, je crois deviner. Je crois. Sans me forcer trop, vous voyez.
Vous êtes un optimiste, vous.
Les évêques
qui croient en Dieu, les policiers qui sont droites.
Ils croient en Dieu, j'en suis sûr. Oui. Mais ils sont infidèles, ça, je crois. Ça, c'est ça qui est.
Donc, rendez-vous.
Alors, rendez-vous, je répète, bien entendu. Le 5 février, c'est un samedi à 14h30, comme d'habitude, à la Bourse. Donc, tout près du planning. Là, j'ai fait un petit tract. Et à mon avis, il est assez intéressant parce qu'il est intitulé La culture et l'idéologie. Alors, sous forme de petits ballons, vous avez dans le haut du tract les différentes. Alors, ça commence par les droits de l'homme sans Dieu, par les Lumières, par le laïcisme, par le. Oui, on voit tout ça, et on voit les comités d'éthique, les loges maçonniques, bien entendu. On voit l'occultisme, l'individualisme, tout ça, tout ce qui fait l'hédonisme, l'utilitarisme. On voit au fond tout ce qui fait cette espèce de nébuleuse de la culture de mort. Et mon Dieu, enfin, je pense que le recensement n'est peut-être pas complet, mais enfin, on y verra pas mal de choses. Et puis, on y verra cette phrase, maintenant, célèbre, hélas, mais tellement intéressante, où tout est permis, vous la connaissez, par Pierre Simon, docteur Pierre Simon, deux fois grand maître de la Grande Loge de France, 1979, disant ceci, tout est permis, vous allez voir, je cite, la vie n'est plus un don de Dieu, je cite, la vie n'est plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère.
Oui. Bah, c'est ce qu'auraient pu dire les gens dont on parle en ce moment, là. Ils géraient aussi du matériau.
Voilà. Et alors, je terminerai en disant que nous aussi, j'ai vu que tout le monde ici fait campagne contre la Constitution européenne, mais nous aussi, on va mettre notre petit grain de sel. On aura des affiches, des belles affiches. On a pas mal de gens qui affichent maintenant, aussi bien aux Champs-Élysées qu'à Duplex, que même en Normandie. Enfin, nous avons des équipes maintenant. Eh bien, il y aura des photos montrant un peu des horreurs, je le dirais. Alors, nous mettrons non à la culture de mort, non à l'Europe de... je veux dire, par exemple... Exactement quoi ? L'Europe libérale, oui à l'Europe chrétienne, n'est-ce pas ? Non à la Constitution antichrétienne.
Bon, alors si j'ai bien compris, vous voulez faire avorter la Constitution.
Nous voulons faire... vous l'avez très bien dit, peut-être que vous me donnez l'idée de faire avorter la Constitution. C'est cette horreur. Alors là, voilà. Alors peut-être nous, on ne va pas réussir, mais ça ne fait rien. Comme je pense de plus en plus que la lutte contre l'avortement est porteuse, à tout point de vue, je crois que là nous sommes je ne dis pas un tsunami, mais un surf. Voilà.
Merci docteur. Merci. Il est extraordinaire parce qu'il m'a téléphoné tout à l'heure. Je lui ai dit, docteur, je ne peux pas, il y a trop de monde dans l'émission, je vous donne 3 minutes en début d'émission.
J'ai exagéré.
Il est gonflé, vraiment.
De toute manière,
il m'a embobliné encore un coup.
Non, ça accroît l'importance de France Résistance. Plus il y aura d'associations qui luttent contre ce gouvernement de malheur, plus nous aurons de chances de faire capoter cette constitution.
Et je puis vous le dire, nous sommes de plus en plus nombreux. Et alors là, il y a une relève remarquable chez les jeunes. Même je reçois des courriers d'enfants de 11 ans, de 12 ans. Ils sont là, ils collent nos affiches, ils collent nos autocollants.
C'est très bien. Je vous apporte une précision sur le docteur Simon que je connaissais bien, puisqu'il succédait un coup à Richard Dupuis, Simon Dupuis. Alors Dupuis était des nôtres. Et Simon. Simon était le gynécologue de Madame Pompidou. Il avait pris la place d'Aroun Taziev.
Pourquoi
il était le gynécologue de Madame Pompidou, ça peut expliquer les temps. Ah non, mais en maçonnerie, je voulais dire. Je le mets, bon, ça fait
rien. Conseiller au cabinet de Robert Boulin, qui était franc-maçon lui aussi.
Oui. Allons bon.
Robert Boulin, si.
Qu'est-ce qu'on apprend comme abomination? Merci docteur, merci. À bientôt.
À propos de la manifestation pro-vie de dimanche dernier, dans la Croix, le lendemain, 3 lignes annonçaient quelques centaines de participants. Le surlendemain, c'est-à-dire hier, un nouveau petit pavé. Précision, les participants de la manif étaient 10 000 selon les organisateurs, 3 400 selon les policiers. une dame qui y était.
Quand le journaliste va croire, il n'est pas obligé de savoir compter non plus, il ne faut pas rêver.
Envoie leur temps. La journaliste, elle est venue seulement à l'opéra très peu de temps, elle est partie assez vite. Mais quand même, pour la Croix, défendant un petit peu la Croix, dans la semaine qui a précédé, 15 jours qui ont précédé, ils ont fait un bon article en faveur de la manifestation. Eh bien, c'est honneur à eux, parce que franchement, ils avaient du courage. De même, Famille Chrétienne, je dirais aussi. Félicitations. Non, non, mais vous savez, les amis, on les compte, on les voit, on les pèse.
Un auditeur nous dit, Monsieur Serge de Beketch-Ricane, au sujet des propos de Madame Marine Le Pen. Mais ces propos dénotent que le front est en charpie. Il y a eu l'épisode Maigret, Gollnisch, la fille Le Pen et le père. Tout ça fait désordre, d'autant plus que dans la paroisse des Cônes, ça ne va pas mieux. Que vont faire les troupes?
Mais pas du tout. Moi, je crois pas du tout que le front soit en charpie. Le front, d'abord, c'est des militants. Il y a un bloc, il est là, il existe toujours. Bon, il y a un différend familial au sommet. Et encore, je suis pas absolument certain qu'il y ait un différend familial. À mon avis, ça mériterait examen. Hein, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelque chose de convenu. Hein, parce que c'est formidable de pouvoir dire, mais moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là, et ça booste bien une carrière débutante, comme on dit. Et puis, en plus, que vont faire les militants? Ben, ils vont faire comme moi, et ils vont dire, et ça fait 10 ans que je le répète, le successeur naturel, on le connaît, je dirais pas qui c'est parce que je veux pas lui le desservir, mais on le connaît, et naturellement, il prendra la place qui lui revient, parce que tout le reste, c'est des gesticulations.
Un petit point sur le Beketch, l'éléphant est incontournable et non pas irréfutable.
Ah non, non, faut alors là. Ça, je suis désolé, mais vraiment, monsieur ou madame, je ne sais pas, monsieur, je suis obligé de vous dire que moi, je suis vraiment la seule chose que je connais au monde, c'est Vialat. Quand je dis l'éléphant est irréfutable, je vous dis, comme Allah est grand, l'éléphant est irréfutable.
Cette personne se trompe.
Oui, bah bien sûr, vous devriez prendre sa défense plutôt. Voilà.
Et une auditrice nous dit, j'ai reçu ce matin le Libre Journal et je me suis beaucoup amusée avec la Marianne de la République.
Ah oui.
Je voudrais rappeler au Marquis qu'en ce qui concerne Victoria, on ne dit pas institutrice, mais professeur des écoles. Mais pas du tout, je n'ai jamais été professeur des écoles. Moi, j'étais institutrice et même maîtresse d'école, voilà. Ce qui me plaisait beaucoup.
Et maintenant, j'aurais bien aimé vous avoir comme maîtresse, Victoria.
Mais c'est vrai.
Surtout dans un
fouet.
Et un autre message pour le Marquis, tiens. Est-ce vous qui auriez laissé un message sur le répondeur de Morandini sur Europe 1, concernant l'émission de Thierry Ardisson? Il m'a semblé reconnaître votre voix.
Ah non, ce n'est pas moi.
Non. Il travaille à Radio... Enfin, il collabore à Radio Courtoisie, il va pas aller...
C'est même un imitateur.
Et un auditeur nous dit ce soir sur Radio Courtoisie, notre cher pays est défendu par un Français dont le grand-père était russe et un autre dont le grand-père était espagnol, qui a dit que l'immigration n'était pas une chance pour la France.
J'ai pas de grand-père espagnol du tout, moi.
On dira les grands-pères, mais c'est pas forcément de vos grands-pères.
Ah bon, non, mais c'est...
Moi, j'ai un grand-père espagnol.
C'est notre ami Rondeau. Alors,
j'ai aussi un grand-père vendéen.
Non, mais il ne faut pas se défendre, c'est bien
et
aussi.
Et je suis européen.
Vendéen. Voilà.
Moyennement
quand même. Mais... Alors, je reçois donc ce soir Jean-Pierre Rondeau. C'est ça, je me trompe pas. J'ai tellement de problèmes avec les prénoms que je ne dis pas.
Del Castillo, du nom de ma mère. Voilà.
Ah, Rondo del Castillo, c'est joli, ça en dirait un nom de danse.
C'est même amusant parce que vous noterez que ce sont deux grands écrivains actuels, Rondo et del Castillo. Voilà.
Alors Jean-Pierre Rondo, donc qui est, comme vous l'avez peut-être entendu, certaines intonations de la voix qui est de là-bas.
Il a un accent,
tu vois que c'est Pierre. Toi, ça te gêne beaucoup, j'imagine.
Moi, j'ai pas d'accent.
Pas d'accent du tout. Ma parole d'honneur. Un accent, où tu as vu?
Où t'as vu, j'ai un accent, moi? Qu'est-ce que tu racontes?
L'accent de la sincérité, quand même.
Et alors, Pierre Descartes, je leur ai demandé de venir tous les deux, bien qu'ils parlent, bien qu'ils ne soient pas là pour parler de la même chose, mais je sais que ce que va dire Jean-Pierre Rondeau va intéresser Pierre Descartes et que ça va attirer son attention. Et je suppose que ce que dira Pierre Descartes intéressera Jean-Pierre Rondeau, et en tout cas, ça l'intéresse pas, il le dira pas parce qu'il est bien élevé. Alors, on va commencer par Jean-Pierre Rondeau. Vous avez lancé, il y a déjà un certain temps, une espèce d'alerte en disant, mais on est en train de nous faire quelque chose qui ne me plaît pas du tout, moi qui suis né dans les départements français d'Algérie. c'est qu'on indique comme lieu de naissance des ZEDA qui est la mention minéralogique sur les voitures qui désigne l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie Fellouze Bouteflika. Et vous dites, moi je suis pas né en Algérie, je suis né dans un département français, je suis né en France. Non. Alors au début ça n'a pas beaucoup pris, c'est-à-dire que les gens ont l'impression, se sont dit, oh c'est tellement subalterne comme sujet. Puis d'un seul coup, tout le monde commence à en parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, donc, vous me laissez quelques minutes.
Ah ben oui, bien sûr.
Donc, je pense qu'il faut rappeler quand même un historique. Nous avons déjà, en tant que Français d'Algérie, nous avons déjà du mal en permanence. Je remonte mon micro. Nous avons du mal en permanence parce que souvent l'administration nous demande à prouver que nous étions Français. Et il y a quelques années d'ailleurs, j'avais un peu eu l'honneur des médias puisque en tant qu'élu parachutiste, chargé de décider qui est bien correct dans les listes électorales, etc., j'avais été amené à prouver que j'étais français. Donc j'avais fait une première constatation. Ensuite, nous avions le 99 dans nos papiers d'identité. Le 99, c'est ce que tous les étrangers ont sur leur papier d'identité. Et il est évident que, je le rappelle pour certains, nous sommes nés dans des départements français. Et c'est pour ça que aussi cette affaire ne concerne pas que les gens, les Français d'Algérie, mais elle concerne tous les Français. Nous sommes nés donc sur le territoire français. Il existait 4 départements qui ont été après subdivisés, mais en tout cas 4 grands départements qui étaient le 91 qui était donc Alger, le 92 qui était l'Oranais, le 93 Constantine et le 94 les territoires sahariens.
Si vous me permettez une remarque.
Je vous en prie.
En fait, ça n'a pas beaucoup changé.
Pour le 93.
Pour le 93,
voilà. Donc, ensuite, en 62, les départements ont été dissous et dans les années, je crois, 65 ou 67, quand le département de la Seine a été éclaté, ces numéros de départements ont été repris pour les départements de la région parisienne. Donc, nous avions ce 99 et j'ai lutté pendant des années pour qu'on nous le modifie. Et nous avons été compris, au sens gaullien du terme, par monsieur Alain Juppé, donc en 1990, et qui a fait voter un décret qui nous permettait de récupérer notre numéro de département, à condition donc de faire une démarche qui durait une année. Et c'était donc toujours déjà sous la présidence de monsieur le président Jacques Chirac. Et en 2000, Madame Martine Aubry, qui était alors ministre des Affaires sociales, solidarité, etc., renouvelait cette possibilité parce que un grand nombre de Français d'Algérie n'avaient pas été informés pour changer ce 99. Donc, par exemple, pour ce qui me concerne, en 92. En ce qui me concerne, donc, j'ai changé mes papiers et à partir de là, ça a changé mon numéro INSEE, donc ça a changé mon numéro de carte d'identité, de sécurité sociale, ça a changé ma feuille d'impôt, ça a changé ma carte d'électeur et j'attendais ma nouvelle carte Pasqua qui était la fameuse carte infalsifiable de Monsieur Pasqua. Et quand elle est venue, je n'avais pas le 92 mais j'avais Algérie. Donc j'ai déjà protesté et on m'a expliqué que Monsieur Pasqua n'avait pas imaginé. Il n'était pas au courant que de l'autre côté, deux ministres sur un délai de 4 ans avaient voté des décrets. Et donc la carte d'identité infalsifiable est sortie avec Algérie. Bon, on s'est dit, eh ben, ils vont corriger la mesure et dans quelques années, au moment des renouvellements, on aura...
C'était promis, a dit Pasqua.
Oui, c'était une promesse pascalienne. J'ai dit tout à l'heure que nous avions été compris au sens gaullien du terme.
Et promis au sens pascalien.
Donc voilà. Et en janvier dernier, je devais partir au Canada et j'ai dû refaire mon passeport. Et à ce moment-là, j'ai reçu mon passeport. Donc, vous l'avez, bien sûr, les auditeurs ne peuvent pas le lire. Mais il était écrit au rang et des ZEDA derrière. Alors, je savais immédiatement ce que voulait dire des ZEDA. Des ZEDA, c'est Jézaïr. C'est le nom arabe qui a été repris, qui n'est pas d'ailleurs la traduction exacte de Algérie. C'est le nom arabe donc qui a été repris par l'Algérie. Et donc j'étais né maintenant à Oran, en Jézaïr, c'est-à-dire dans un pays qui n'avait jamais existé avant 1962. Et moi je suis né en 47, qui n'avait jamais existé. L'Algérie était avant les Français n'était pas un pays. On l'appelait d'ailleurs la Berbérie. Hein. Dans les cartes on retrouve Berbérie ou Barbarie. et elle était donc, on le sait, sous administration turque. La province qui était l'Algérie française ne s'est jamais appelée Djezaïre. Donc j'ai refusé immédiatement et j'ai commencé à mener des recherches, et vous parliez donc de mon action, elle date de janvier 2004. À ce moment-là, donc, j'ai tenté d'alerter les associations dites de rapatriés, les associations de Français d'Algérie, les associations de Harkis, et puis petit à petit, ça s'est su. Mais j'ai pu à ce moment-là découvrir par une note cachée de la préfecture qui me donnait l'explication. En fait, ce DZA, c'est la norme internationale, la norme qui a été prise par l'Europe pour les passeports dits électroniques, qui sont maintenant imposés aux États-Unis. Et cette norme internationale a été faite dans le cadre de ces nouveaux passeports, donc, qui s'appellent Delphine. Ces passeports sont dits électroniques, ils sont obligatoires pour aller dans certains pays, comme les États-Unis, je l'ai dit. Et la France, bêtement, s'est couchée. Le fonctionnaire qui saisit, donc, Jean-Pierre Rondeau, né à Oran, et qui marque bêtement Algérie, saisit donc Algérie, mais ça se traduit automatiquement en DZA. J'ai à ce moment-là lancé cette note sur Internet notamment, mais aussi en l'adressant à tous les Français d'Algérie avec qui je suis en relation et les associations. Et cette note a commencé à circuler, et de plus en plus de Français d'Algérie ont regardé leur passeport. Et ont constaté qu'ils avaient des ADA. En fait, ils ne s'étaient pas rendu compte que des ADA étaient sur le passeport, ou alors ils l'avaient vu, mais ils n'avaient pas compris ce que ça voulait dire. Voilà. Alors, en plus, cette note permet aux Français d'Algérie de modifier le haut rang des ADA, par exemple, en mettant entre haut rang et des ADA, on met en France. Donc, on met haut rang-France et des ADA, ce qui est un mieux pour nous, mais qui est assez ridicule pour la France, puisqu'elle apparaît là, comme dans le monde entier, comme étant une province de l'Algérie.
C'est pas faux non plus.
C'est pas tellement inexact.
Alors, c'est pas tout à fait faux dans le sens de l'histoire. Mais en 1962, quand nous sommes partis... On parlait tout à l'heure des matchs de foot, mais moi, je ne sors mon drapeau que pour ce qui s'est passé avant et pas pour ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je tiens à mon histoire. D'abord, je tiens à mon histoire. C'est l'histoire de ma patrie. Et c'est pour ça que je dis que ça concerne tous les Français, parce que c'est une négation des départements d'Algérie, c'est une révision de l'histoire, et c'est aussi une discrimination, parce que n'importe quel Breton à Rennes, France, un Alsacien à Strasbourg, France, un Corse à Ajaccio, France, et aucun n'a...
Oui, parce que pour les Alsaciens, on pourrait mettre Deutschland aussi.
Voilà. D'ailleurs, on a le cas, et on a vu que, historiquement, sur les anciens passeports, on avait remis France. On n'a jamais, pour ceux qui étaient nés sous occupation allemande, ils n'ont jamais eu Deutschland.
Il y a un autre aspect quand même qui est quand même énorme, c'est que vous exposez dans une communication que vous avez faite sur cette affaire, c'est l'histoire de cette compagnie, de cette société d'aéronautique qui systématiquement, sur les listes de, je suppose, de candidatures professionnelles.
Enfin, pas du tout, sur les listes de son personnel.
Ah, voilà, donc, sur les listes de son personnel.
En fait,
en rouge, la mention des ADA. Pour une raison.
Elle sort en rouge sur ses listings. En fait, c'est pas seulement des ADA, vraisemblablement. Il doit avoir la même chose pour tous les pays musulmans. Mais pour tout le personnel c'est une société, donc, disons que dont on a beaucoup parlé ces temps derniers. Je peux pas la citer pour la bonne raison que la personne qui me l'a indiqué travaille là. Et j'ai promis donc de ne pas citer le nom, mais en tout cas dans cette société et il est logique que cette société ait en matière de sécurité quelques vigilances, et donc elle fait que fait-elle, donc les salariés qui sont nés en DZA sont le sigle DZA sort en rouge. Il faut comprendre que le passeport électronique aujourd'hui est à lecture optique, donc c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays notamment notamment équipés d'informatique, donc la plupart des pays aujourd'hui, le passeport passe dans un système électronique et donc il note uniquement le DZA, même s'il y a France dessus avant, ça fait partie du nom du pays, du nom de la ville et ça ne concerne pas l'observation. Mais dès que vous avez le DZA, vous êtes observé, vous êtes suspect. Alors depuis que j'ai lancé cette opération, de nombreux témoignages me sont parvenus. D'abord, on l'a lu dans la presse, mais les pilotes de certaines compagnies, et notamment d'Air France, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y a quelques mois, étaient systématiquement les pilotes d'origine des départements d'Algérie française, sont systématiquement écartés des vols vers les USA. Donc voilà un exemple. Mais deux sœurs, par exemple, qui passent au Canada avec un passeport, un qui n'est pas électronique parce qu'il est ancien, et une qui a fait refaire son passeport, une passe 20 minutes de contrôle. Un de nos amis a eu 3 heures de fouille systématique. Il y a les ennuis que ça nous cause et nous allons être de plus en plus marqués. Certains parlent d'une espèce d'étoile que l'on nous ferait porter, mais nous allons être de plus en plus marqués parce que de plus en plus le monde est informatisé. Mais en plus, moi je me base sur l'histoire de la France, je me base sur l'histoire de mon pays. Je suis né dans un pays français, je fais ça dans un territoire français, je fais ça pour mes anciens, je fais ça pour mes enfants aussi.
Alors qu'est-ce que vous proposez de faire?
Alors, j'ai lancé, de nombreux députés nous ont appuyés, c'est un peu facile, mais bon, ils ont une, surtout ceux qui ont des électeurs pieds noirs, et donc de nombreux, rien que sur à l'Assemblée nationale, on a eu 9 questions de députés, et j'ai eu le soutien de, et par écrit, de nombreux Cardot, Monsieur B. Roux, etc., qui nous apportent leur soutien, qui interrogent le gouvernement, qui demandent à signer. Mais nous venons, le 4 janvier, d'avoir la première réponse, enfin. Normalement, le délai de réponse théorique est de 2 mois. Nous venons d'avoir, après plusieurs mois, la première réponse à un député. Et le ministère donc de l'Intérieur répond, eh bien, nous vous comprenons. Ils nous comprennent.
Ça, c'est toujours bien.
Très, très
beau lien. Je vous ai compris.
Voilà, ouais, on comprend sur l'histoire, surtout. Mais il y a la norme internationale. Or, je prétends, si vous me laissez encore 2 minutes, que la norme internationale n'est pas du tout un problème. Pour la bonne raison que je l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui intéresse dans la norme internationale, c'est le pays de naissance. Ce n'est pas la ville. Et d'ailleurs, les visas, la plupart des visas ne comprennent pas le nom de la ville. J'ai tous les documents là, mais la plupart des visas ne comprennent que le pays de naissance. Il suffit donc demain que le fonctionnaire et l'ordre de l'État de saisir le Oran par exemple, oui. Et en mettant France au lieu de mettre Algérie.
D'autant, pardonnez-moi,
oui, je vous en prie.
Il n'y a pas d'Algériens jeunes qui soient nés à Oran. Ils sont nés à Annaba, non?
Non, absolument. Je vais y revenir sur ce problème d'Annaba. Donc il suffit que le fonctionnaire saisisse cela pour que ce soit réglé. Et donc il faudrait qu'il le fasse bien entendu jusqu'aux gens qui sont nés jusqu'en juillet 1962. Et pourquoi c'est possible? Vous citez Annaba, j'en donne l'exemple. C'est que, en fait, la France s'est pas moquée, mais a eu le droit de ne pas, de prendre des aises avec cette norme internationale, puisqu'elle a créé, par exemple, 2 villes, et elle a dédoublé les 3/4 des villes et villages d'Algérie, qui ont changé de nom, de nom français au nom algérien. Et par exemple, si vous êtes français aujourd'hui, mais si vous êtes né en tant que Français d'Algérie avant 62, on vous met bonne. Si vous êtes né après 62 parce que vous êtes un Algérien qui a demandé sa nationalité française, on vous met Annaba.
Oui, c'est donc, c'est pas, Oran, c'est...
Oran est resté. Mais tout ça pour dire que la France a pu dédoubler des villes. Mais il y a pire, j'ai découvert que dans les notes d'instruction, il peut exister des gens qui n'ont pas de ville de naissance et qui n'ont pas de pays de naissance. On peut mettre inconnus.
Les réfugiés.
Vraisemblablement des réfugiés politiques ou des gens qui sont nés en Afrique où il n'y a pas d'état civil, etc. Donc, ça veut dire que vis-à-vis de la norme internationale, la France peut se permettre pas mal de choses et ce n'est qu'une décision politique. Et là, j'ai réfléchi depuis et je crois que j'ai compris le problème. Le problème, il est de trois niveaux. C'est un problème politique. Le premier, c'est, tout le monde le sait, j'en ai parlé ici sur cette antenne, c'est que M. Chirac est en train de signer un traité d'amitié franco-algérien. Et vous vous rendez compte, si tous les Kabyles, par exemple, qui sont un peu en lutte avec le gouvernement ou certains Algériens, qui ont gardé la nationalité algérienne, mais demandé, ils sont nés avant 1962, à porter le pays de naissance France. Premier point. Deuxième point, problème pour la France, c'est un problème peut-être d'immigration, pour surveiller certains. Et le troisième, c'est un problème pour les pays sensibles en matière de sécurité. Je citerai par exemple Israël ou les États-Unis. C'est que, ils préfèrent surveiller les gens qui sont suspectés d'être musulmans. Et donc, à partir de là, comment faire deux poids deux mesures entre eux et nous. Donc, c'est un problème politique, mais que nous n'acceptons pas. Et donc, aujourd'hui, c'est le mouvement. J'ai, grâce à un journal, le journal L'Écho de l'Oranie, qui a passé ma pétition. J'ai lancé donc un appel à la mobilisation des Français rapatriés. Et j'ai plusieurs centaines aujourd'hui de rapatriés qui sont en train de dépatrier, qui sont en train aujourd'hui de me rejoindre. Et je vous donne un scoop, je vous dirai pas son nom, mais j'ai un très grand avocat, que j'aime pas beaucoup parce qu'il est très médiatique et quelquefois dans des causes qui sont pas tout à fait les nôtres. Mais bon, c'est un très grand avocat qui devrait prendre le dossier de façon gratuite à partir de lundi. Parce qu'il il juge que c'est bien sûr de la discrimination. Je pense qu'il y voit, lui, un coup publicitaire assez extraordinaire. Et je sais qu'on va gagner, mais j'ai besoin de la mobilisation des Français. C'est pour ça que je dis que j'ai lancé cette pétition et que j'ai lancé un pré-mouvement. Je ne sais pas encore si je vais le créer. J'ai besoin un peu de fonds, j'ai besoin d'aide, qui s'appelle Dépatrié, que j'ai appelé Dépatrié.
Ouais, c'est une jolie phrase, voilà. Dépatrié. Où est-ce qu'on peut vous joindre si on veut participer?
Et on peut me joindre donc à deux téléphones, mais je demande de pas m'appeler dès demain, parce que, ou alors si on m'appelle dès demain juste pour laisser un message, il ne faut pas m'en vouloir parce que j'ai des centaines d'appels actuellement, et je ne peux pas rappeler tout le monde, mais j'envoie à tout le monde un dossier. Donc on peut m'appeler soit à mon bureau au 01 30 54, pardon, c'est mon domicile, mais c'est 01 30 54 93 98, à mon bureau 01 44 51 62 20. On peut m'appeler, me faxer une adresse.
Je vais vous demander de les répéter parce que tout le monde est largué. 01.
Alors, mon domicile 01 30 54 93 98.
C'est Madame Rondeau qui va être contente.
Madame Rondeau, elle est souvent avec moi au bureau. C'est notre répondeur qui va être mal contente. Bureau 01 44 51 62 20. Mon fax
62 20,
pardon. Et mon fax 01 42 66 31 32. Et mon email, alors, ouais. Jean-Pierre, donc avec un tiret, point Rondeau, R-O-N-D-E-A-U, avec le numéro 2 collé, @ ou at wanadou.fr.
wanadou.fr. Ben, il vous reste à faire un site internet.
Il me reste à faire
si
un site.
Si vous trouvez un webmaster flash et un infographiste disposé à travailler pour vous, comme ils travailleront bénévolement pour les jeunes gens qui ont pris une très bonne initiative relativement. Alors, à l'Europe.
Il existe un site qui a repris la plupart de mes documents, qui s'appelle Algérie française, qui doit être point, je sais pas, vous me le demanderez. De toute façon, en faisant Algérie française, on l'a. C'est un garçon qui se trouve en Australie, qui fait un excellent travail, et où il y a des tas d'autres renseignements, et donc, par ce site, on peut aussi obtenir un certain nombre de documents. Est-ce que je peux dire juste un petit mot, monsieur de Becquet? Je voudrais d'abord dire que dans quelques jours, au mois de février, va sortir une loi, qui est la loi écoutez, le nom m'échappe à l'heure actuelle, mais qui est dite en faveur, la loi ultime en faveur des rapatriés. Il va y avoir beaucoup de battages là-dessus. Je voudrais que nos compatriotes sachent que, je ne vais pas développer un deuxième sujet là, mais je voudrais dire que nos compatriotes sachent qu'il n'y a rien dans cette loi. C'est une fumisterie de l'État français. Il y a un peu pour les harkis, mais pas beaucoup, mais il y a un peu pour les harkis. Mais pour, il n'y a rien, pratiquement à côté. Et donc ne vous laissez pas tromper par cette loi qui va sortir pour qu'il n'a qu'un bénéfice électoral et surtout de nous faire taire, de dire que les problèmes sont réglés en vue de la fameuse signature de ce traité franco-algérien. Et je voudrais vous dire une dernière chose, Serge, vous saluez, j'ai fait une bêtise, je devais vous amener un livre que m'a remis un chauffeur de taxi pour vous. Je voulais d'ailleurs qu'il vous contacte, parce que je pense que ça vous aurait amusé de le passer à votre émission. Il est fidèle auditeur de Radio Courtoisie et il vous aime beaucoup. Et il a fait un livre assez fort au niveau technique, c'est-à-dire toutes les rues de Paris, en mettant en distinguant numéro par numéro, c'est-à-dire des tranches d'immeubles par croisement, c'est-à-dire qui dit de tel croisement à tel croisement, vous avez donc c'est quelque chose de génial. Je suis sûr que ça vous aurait amusé. Je suis désolé, je l'ai oublié, mais je vous le ferai porter.
Et comme
je
vous donnerai une occasion de revenir.
Je n'ai pas le nom de ce chauffeur de taxi, mais je voulais le saluer. Merci.
C'est gentil. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rondeau. Donc vous reviendrez nous voir pour nous parler de la suite de cette opération qui concerne quand même quelques dizaines de milliers de personnes. Et le titre de dépatrié, le mot de dépatrié, je trouve, est beaucoup plus fort que rapatrié ou expatrié. C'est un mot qui exprime vraiment une réalité. Votre avis, monsieur Descaves ?
À mon avis, cette initiative est fantastique parce que depuis que nous sommes rentrés, non pas rapatriés, mais réfugiés, nous avons tout subi. Tout. Alors déjà avant, De Gaulle nous a honteusement menti, mais tous ceux qui lui ont succédé ont fait la même chose. Et je crois que aujourd'hui, quand j'entends Jean-Pierre Rondeau nous dire que la prochaine loi, d'ores et déjà d'avance, on sait qu'on va être roulé, moi ça ne me surprend pas, parce que tous ces gouvernements, d'après 45, en définitive, n'ont eu d'autre objet que de tromper le peuple. Et les rapatriés ou réfugiés, eux, ont été trompés de beaucoup plus de fois, en somme.
Et là, c'est la vie d'un orfèvre, quand même, hein, parce que Pierre est une espèce d'incarnation.
Mais j'ai payé pour...
du combat pour l'Algérie française.
C'est un combattant de l'Algérie française. Et...
Mais il n'a pas baissé les bras pour autant, car je vois que mardi, c'est-à-dire hier, tu étais à 20h à Orange.
Oui.
Pour tenir avec... Bernard Anthony, Jacques Bompard, le maire d'Orange, et Guy Macari, président du conseil du FL, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, un meeting commun de l'Esprit Public, l'association créée par Bompard, et de France Résistance, qui est l'association que toi tu as créée, justement au sujet de la constitution de l'Europe. Et de la Turquie en Europe. Alors, les auditeurs vont être absolument stupéfaits de découvrir que le titre de cette manifestation, c'était « Constitution de l'Europe, non. Turquie en Europe, c'est encore non. » Ça fait quand même... Ça fait à peine 50 ans qu'il dit non. Vous voulez ça ? Non. Pourquoi ? Ben non. Parce que je veux pas, c'est tout. Comment ça s'est passé, cette réunion ?
Ça a été une très très belle réunion. D'abord, il y avait un public nombreux, puisqu'il y avait 300 personnes dans la salle du théâtre. Il y avait...
Pas le théâtre antique, hein,
Non.
Le théâtre municipal.
Mmh. Il y avait également une ambiance assez extraordinaire, et je dois dire que les gens qui étaient là, manifestement, avant même de nous écouter, ils avaient déjà compris. Parce qu'on sentait qu'ils voulaient nous pousser en avant, on n'en disait jamais assez, il fallait aller plus loin. Omar, comme avec moi, je ne fais jamais dans la dentelle, donc ils ont été servis de toute manière.
Avec ce que nous disait le docteur tout à l'heure, parce que bon, il y avait à peu près, d'après les journées, à peu près 5000 personnes, semble-t-il, à l'opéra, 300 personnes à Orange, quand même, parce que Orange, c'est pas une capitale.
Et le Mistral, on a eu deux adversaires.
Oui. Orange, il faut quand même s'y attendre.
Il y a eu un Mistral, alors, vraiment, froid, à un point qu'on était frigorifié même dans la salle.
Et Jean-Pierre Rondeau nous disait tout à l'heure qu'il a des centaines d'appels à propos de son initiative. Moi, je me demande s'il n'y a pas une espèce contrairement à ce que disait notre auditeur tout à l'heure qui parlait d'un Front National en charpie, j'ai pas l'impression, alors il s'agit pas du Front National, mais il s'agit de gens qui sont, d'hommes et de femmes, qui sont en train de se réveiller.
Il y a un réveil, oui, absolument.
Il y en a marre maintenant, il y en a marre, c'est trop.
Je crois que le but principal, il est certain qu'il y a les partis politiques qui font campagne pour le non. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais il y a toute une frange de la population qui ne va plus voter. Là, j'ai fait le relevé des référendums, c'est effrayant. Maastricht, il y a eu 12 millions et demi de gens qui sont abstenus, qui ont voté blanc ou nul. Alors qu'il y a eu 461 000 voix de différence entre oui et non. Mais les criminels qui ont fait ça, moi, pour moi, c'est les abstentionnistes. Et il faut que ces gens se rendent compte absolument que c'est par leur faute si on est dans la menace, dans la décadence avec toute cette corruption, avec toute cette voyoucratie, toute cette immigration incontrôlée. C'est parce qu'ils s'abstiennent quand il faut voter. Là, on a aussi une occasion où il faut voter absolument.
C'est vrai, mais il y a un phénomène. Le phénomène, on le retrouve absolument partout. Tout à l'heure, le docteur Dor parlait de l'attitude des évêques. C'est aussi une abstention. C'est-à-dire que les Français ont fini par comprendre que la démocratie est un système qui ne peut pas marcher, parce qu'il est un système menteur qui a été confisqué par des voyous. Et par conséquent, ils disent de toute façon, quels que soient les votes qu'on émet, quelles que soient les décisions qu'on prend, ils iront où ils veulent. On a voté Chirac pour pas avoir le socialisme. On a pire que le socialisme, disent-ils. On est contre... contre, par exemple, la peine capitale. Les Français voient bien que c'est la clé de voûte du système pénal en France. Enfin, il faut vraiment être idiot pour pas le voir, si bien que les Français le voient. Mais on les interroge sur des histoires dont ils ont rien à foutre. La Constitution européenne, on leur demande de voter. Personne ne l'a lu. Il y a des héros qui l'ont lu, trois ou quatre, qui essayent de résumer. Il faut déjà être un héros pour lire leur résumé et pour écouter ce que le héros qui résume, ce que le héros qui a lu a écrit. Il faut déjà être héroïque. Donc il y a un moment aujourd'hui, on s'en fout. Alors pourquoi je vais me déranger? Je suis contre. Et de toute façon, si on vote contre, ça sera comme au Danemark.
Alors comment ça?
Et ben, ils nous referont voter deux ans plus tard. La Turquie, c'est extraordinaire. On nous dit, vous voterez pour la Turquie. Mais c'est pas vrai. Alors encore, Villiers a expliqué très bien l'autre soir dans l'émission de Rien que de toute façon, la décision est prise et qu'on commence déjà à donner du fric à la Turquie pour préparer son entrée dans l'Europe. Et mieux que ça, tout le fric de l'État, tout le fric volé aux contribuables, qui va être réservé à la campagne pour le oui. Il n'y aura pas un centime pour la campagne pour le non. C'est-à-dire que l'État, qui devrait être neutre dans cette affaire, l'État, je ne parle pas des voyous qui sont au pouvoir, je parle de l'État en tant qu'entité, qui devrait être neutre, confisqué par les mafias au pouvoir, va soutenir exclusivement un parti. Donc, quand les gens voient ça, moi-même, je dis, allez vous faire dorer, je veux pas me déranger, il fait froid, ou alors il fait beau, je préfère aller à la campagne. Qu'est-ce que je veux me déplacer? D'abord, je suis pas démocrate, j'aime pas voter, ça m'énerve. Bon, et puis ça sert à rien, et ben voilà, il faut les comprendre aussi.
Oui, mais tu vois, Serge, ça c'est négatif. Moi, j'estime que...
Oui, mais c'est l'explication.
Mais oui, ça explique. Oui. Mais, si tout le monde baisse les bras, si nous-mêmes nous baissons les bras, alors qui va se battre? Et puis alors, est-ce qu'on va attendre que les gens soient obligés de prendre les armes pour se battre? Moi, j'ai déjà donné. J'ai été roulé par le dénommé Debray, là. Quand le territoire est attaqué, il faut le défendre les armes à la main. On est descendu, mais lui nous a fait tirer dessus. Alors... moi, je suis pas pour ça. On a la possibilité de faire avorter cette saloperie de constitution. Pour la faire avorter, et là, c'est pas d'or que je vise, là, c'est la constitution. Minute. Parce que je trouve que, de ce côté-là, on a aussi trop laissé faire. On a voulu donner raison à toutes ces mafias plus ou moins venant des francs-maçons, des frères, puis de toutes ces associations mondialistes. Donc, si on veut la faire avorter, il faut se déplacer. Il faut aller voter. Il faut aller dire non. Parce qu'on n'aurait pas eu Maastricht. Ben on n'aurait pas l'invasion des immigrés. Et il fallait 461 000 sur 12 millions et demi. Mais enfin, c'était quand même possible, ça. Or, on a eu toute cette invasion parce qu'on a accepté Maastricht, qui nous a amené Schengen. Aujourd'hui, c'est pire. Ils veulent faire disparaître la nation française. Alors, je disais la comparaison que je faisais hier, la Constitution française, la France est une république. Alors, n'oublions pas que Constitution française, les Français, donc c'est nous. Hein. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ce sont les racistes, je me demande. Elle respecte toutes les croyances. L'emblème national est le drapeau tricolore. Premier point. Deuxième point, l'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On est en présence de notre Constitution. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va voter pour. On va voter pour quoi? Pour l'Union européenne qui aura constitutionnellement tous les attributs d'un État souverain. Une personnalité juridique qui prime celle des États membres. Qui prime. Disparu, la France. Un drapeau sur fond bleu avec 12, 15, 25 étoiles, combien demain? Adieu le drapeau français pour lequel tant de Français ont donné leur sang. Cette image de la France, symbole d'espérance, va disparaître. Un hymne, l'ode à la joie de Beethoven.
C'est plus que la Marseillaise.
Adieu la Marseillaise que les soldats chantaient avant d'aller au combat, mourir pour la patrie.
C'est vrai que monter au combat en chantant l'hymne à la joie, c'est pas très motivant.
Ça doit être une devise. Unis dans la diversité, ce qui ne veut strictement rien dire et qui ne valait pas la peine.
Et réciproquement, il faudrait ajouter, divers dans l'unité, unis dans la diversité.
Et qui ne valait pas la peine d'éliminer les idées forces de la République. Liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose, même si on ne le fait pas. Parce que
oui,
liberté,
ça, voilà.
Nous, on est bien placé pour le savoir.
Moi, je ne marche pas du tout dans ton truc, là.
Une monnaie, l'euro, ayant rejeté le franc dans les poubelles de l'histoire, soi-disant pour accroître notre prospérité. On a vu ce qu'il en a réellement été avec l'accroissement de la pauvreté, l'abandon des personnes âgées dès que le froid s'est levé, la misère des hôpitaux, la disparition des entreprises contraintes à se délocaliser, l'abandon des cultures, de l'élevage, de la pêche et enfin l'accroissement du chômage. Destructeur des familles et des individus. Voilà ce que l'on veut nous imposer. Hein, tout le reste, il y a 448 articles. Quand l'illustre Valéry Giscard d'Estaing est venu nous dire, un jour à la radio, je l'ai entendu sur Luxembourg, il n'y a que 60 articles, mais c'est un menteur. Un menteur est honté. La voilà, la Constitution pour l'Europe. Elle a 448 articles, sans les annexes. Ce menteur également, ils sont venus nous raconter, c'est un simple traité, c'est pas une constitution. Or, le document envoyé par le Conseil de l'Union européenne, le document officiel, traité, oui, c'est un traité, mais pourquoi le traité? Établissant une constitution pour l'Europe, agréée par la conférence intergouvernementale du 18 juin 2004.
Tiens, 18 juin.
Oui, hélas.
C'est pas de mystère. Hein.
Et dernier mensonge, parce que je veux pas être trop long, dernier mensonge, et qui relie un peu ce que vous disiez tout à l'heure. La Turquie dans l'Europe. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut voter le 17 décembre l'ouverture des négociations? On s'est posé la question, qu'est-ce qui les oblige à le faire? Eh bien, c'est parce que maintenant, on vient de le savoir, par la révision de la Constitution française, il y a un article qui dit qu'il y aura un référendum obligatoire pour les nouveaux pays qui demanderont leur adhésion, sauf ceux pour lesquels des négociations ont déjà été engagées. Mais voilà, ce sont des voyous, des menteurs, et on va aller voter pour leur donner encore le droit de nous enfoncer, de nous faire disparaître.
Bon, ben j'irai voter, je te promets.
Ah, voilà, merci.
J'irai voter non.
Je suis content, j'ai une voix.
Mais, moi aussi, je vais aller voter non, ça c'est sûr.
Mais je tiens quand même à dire une chose, tout en allant voter, c'est que cette République qui est née dans l'escroquerie et le sang, elle crèvera dans le mensonge et dans le caniveau, et je m'en réjouis, et j'attends ça avec impatience. J'espère que je verrai ça de mon vivant, quand même.
Ah, moi aussi.
Ce qui me plaira, c'est de voir... J'espère que je ne serai pas pendu le premier, parce que je voudrais bien avoir le spectacle des autres avant.
On décapite maintenant. Hein,
Moi je le décapitais, mais ça me va. Mais ce que je voudrais, c'est voir les autres y passer avant pour avoir un petit peu de satisfaction juste avant d'y passer.
Je ne suis pas sûr parce que si ça se passe comme pour l'Algérie, on fusille. Donc tu seras fusillé.
Bon, je me doute de toute façon.
Moi aussi, t'inquiète pas, je serai sans doute le premier.
Avec des balles rouillées, trempées dans le vinaigre, les pires. Merci Pierre de ton. Tu as une fougue admirable, 18 ans il a.
Hein? Je regrette de ne plus avoir 30 ans.
Oui, ben j'en connais quelques-uns qui, au contraire, sont très contents que tu n'étais plus.
Ben oui, parce que je pense que j'aurais une action beaucoup plus percutante.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Rondeau, merci. Je me tourne maintenant vers Monsieur Mailleux, Christophe Mailleux. On va commencer à parler, on a 5 minutes là, mais vous continuerez en deuxième partie. Donc je rappelle que vous venez nous voir pour assurer... disons les choses clairement, la promotion du colloque que vous organisez sur
du congrès,
que vous organisez, j'arrive pas à trouver le vrai mot, hein. C'est un jour je dis colloque, congrès,
je pense
comité,
qu'il y a une notion importante dans la notion de congrès que
congrès sur la laïcité. Et alors, bon, on va d'abord éliminer les questions qui blessent. Il y a une contestation, je le vois par le courrier que je reçois au Libre Journal. Il y a une espèce de débat stérile et bien entendu inutile et même, comment dirais-je, négatif. Mais enfin, comme la question se pose, il faut la poser. Autour de la position de la fraternité et notamment de Mgr Williamson. Alors, au début, vous avez fait état d'une lettre, vous nous avez lu une lettre par laquelle Mgr Williamson, qui est un des 4 évêques de la fraternité Saint-Pilis, disait « J'invite les Français à se mobiliser pour débattre pour étudier cette question de la laïcité, du détournement, du dévoiement de la laïcité en France, etc. » Et par la suite, un autre évêque de la fraternité, par l'intermédiaire du supérieur du district de France de la dite fraternité, qui est M. l'abbé de Cacret, a dit qu'il ne participerait pas à ce congrès et qu'il invitait qu'il interdisait d'ailleurs aux prêtres de la fraternité d'y participer. Et ensuite ils ont publié eux-mêmes une lettre de Mgr Williamson disant que Mgr Williamson était opposé à toute initiative qui était de nature à nuire à la fraternité. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça?
Non, vous ne dites pas de bêtises, à l'exception peut-être d'une sur laquelle je reviendrai après.
Je vous donne la parole tout de suite, j'essaie de résumer, puis comme ça vous pourrez corriger plus facilement. Et vous avez très bien démontré par la suite et dans les émissions où vous êtes venu jusqu'à présent que la deuxième lettre de Mgr Williamson ne pouvait évidemment pas viser ce congrès, puisque l'objectif de ce congrès, contrairement à ce que pense une petite poignée de toqués qui voient que les gens en sortant des mutualités vont se précipiter à Saint-Nicolas du Chardonnay pour prendre le pouvoir, parce que j'ai entendu ça aussi, on a tout entendu, bon, mais on a entendu ça et pire encore. Donc contrairement à cette poignée de toqués manipulée par des salopards, on en reparlera, vous inquiétez pas, ils vont pas la porter au paradis, celle-là. Cette lettre de M. Williamson ne visait absolument pas le Congrès, qui n'a pas du tout pour objet d'attaquer la fraternité, mais d'attaquer la conception fausse de la laïcité qui prévaut en ce moment en France. C'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de fidèles de la fraternité, beaucoup de fidèles de Saint-Nicolas m'ont écrit, m'ont téléphoné pour me dire, ben nous on ira, parce que on voit pas en quoi une fatwa prononcée par quelqu'un qui n'a pas de titre à le faire dans un pareil débat pourrait nous interdire. Nous ne sommes pas, on va pas faire un péché mortel. Je vous précise qu'on va aller assister à un débat. On va peut-être s'emmerder, ça c'est possible. Mais c'est pas un péché mortel d'aller assister à un débat sur la laïcité. Donc, voilà pour résumer. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de la première partie du temps qui nous est imparti, comme on dit à la télévision. Et on va profiter du petit moment qui nous reste pour réfléchir aux données du problème que je viens de poser, et en début de deuxième partie, vous nous donnerez, vous corrigerez mes bêtises, et vous nous donnerez votre position et la position des organisateurs de ce congrès, qui aura lieu, rappelons-le tout de suite, le dimanche
6 février prochain.
6 février. À la mutualité à partir de
10h du matin, ceci jusqu'à 18h.
Voilà. Alors, je vais dans lequel le livre journal aura un stand, je le précise. Voilà. Pas remarqué qu'il disait la honteuse de l'Occident, parce que en ce moment je suis très sensible à ça. Vous savez, sur les radios, on entend il y a un match de foot au Parc des Princes.
Spécialiste, hein? C'est
pour ça. Parc des Princes, un match de foot, voilà. C'est pour ça qu'on va parler avec vous.
Il y a un congrès.
Un congrès.
6 février.
Voilà. 6 février 34, pardon, 2005.
Alors, je vais paraître à d'auteur, Serge de Becquetch, mais visiblement, il faut répéter. Si j'interviens à nouveau sur cette question, c'est que nous rencontrons, nous, membres du comité d'organisation du Congrès, des personnes qui nous parlent d'un soi-disant démenti de Mgr Williamson, un démenti du texte qu'il a effectivement rendu public le 24 décembre dernier, qui était un appel à tous les catholiques français pour qu'ils participent à ce congrès. Donc je tiens à dissiper ce malentendu, et la question est la suivante. Mgr Williamson a-t-il, oui ou non, retiré son soutien à la journée? Ceux qui pensent que Mgr Williamson a retiré son soutien s'appuient sur cette lettre que vous citiez tout à l'heure, une lettre que Mgr Williamson a envoyée au supérieur du district, l'abbé Régis de Cacré. Cette lettre déclare notamment « Vu les circonstances présentes de votre district, il me semble, dit Mgr Williamson, il me semble nécessaire de faire ce que je peux pour empêcher toute interprétation indue de mes paroles et actions. » Alors je pose la question, les cercles de tradition ont-ils mal interprété des paroles et des actions de Mgr Richard Williamson? Eh bien, cette question, je réponds par la négative. Non. Parce que les cercles n'interprètent rien, les cercles se bornent à diffuser l'appel d'un évêque aux catholiques français, et cet appel est on ne peut plus clair. Je le répète, chers français, les catholiques du monde entier comptent sur vous, et profitez de ce congrès pour nous montrer à tous comment relever l'étendard de la foi. L'appel, vous l'aurez compris, invite donc explicitement à participer à ce congrès, et je peux vous dire que si cela avait été son intention, il aurait été très facile pour Mgr Williamson de dire tout simplement « Je retire mon patronage de ce congrès ». Mais cela, il ne l'a pas fait. C'est un fait objectif. Bref, on cherche en vain dans cette lettre de Mgr Williamson la trace d'un désaveu des cercles ou du congrès. Mais le mot de Mgr Williamson à l'abbé de Cacré réclame encore quelques commentaires. La lettre de Mgr Williamson à Régis de Cacré dit « Je vous demande en conséquence de communiquer à qui de droit que je n'autorise personne à utiliser mon nom pour soutenir des procédés qui soient de nature apte à nuire aux intérêts de notre fraternité Saint-Pédis et ses supérieurs. » L'expression peut sembler maladroite car le français n'est pas la langue de Mgr Williamson, mais le sens est parfaitement clair. Mgr Williamson ne veut pas prêter son nom à une action qui par nature nuirait à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. C'est une évidence, c'est parfaitement logique et nous sommes bien d'accord avec lui. Mais comment un congrès sur la laïcité auquel les membres de la fraternité sont d'ailleurs toujours cordialement conviés, comment ce congrès peut-il nuire à la fraternité? Je vous pose la question.
Alors, ne me le demandez pas parce que moi je suis incapable.
Vous avez posé la question du candide, là, parce que moi, je me mets à la place, et d'ailleurs, ce qui est la mienne, de celui qui est intéressé par ce congrès sur la laïcité. Et je me demande pourquoi vous êtes allé chercher des patronages moi j'aurais dit, je fais un congrès sur la laïcité, point barre, sont invités tous les gens qui se sentent concernés et que ça intéresse. Parce que là, pour l'instant, on est en train de retenir simplement que ça on remet comme ça en surface une querelle. Moi, si j'ai envie d'aller à ce congrès, je n'ai que faire de la lettre de Mgr Williamson, retirée, pas retirée, etc. Et d'un seul coup, on parle pas sur le fond, là, on parle sur des querelles internes. C'est exactement comme quand on dit, nous allons remettre la monarchie en route, et d'un seul coup, on reparle du comte de Chambord avec le drapeau blanc. Et alors, au lieu de regarder en avant, regarde dans le rétroviseur. C'est une grave erreur d'avoir mêlé les curés à votre affaire sur la laïcité, excusez-moi.
Alors, je ne peux...
Un débat laïque sur la laïcité.
Un débat laïque sur la laïcité. Donc, les sacs de tradition, effectivement, c'est...
Et moi, j'appartiens à aucun cercle. Je serais venu très normalement. Je ne peux pas appartenir à un cercle. Et voilà, on est dans une querelle. On n'est pas dans votre affaire propre.
Alors, j'ajoute d'ailleurs à cela qu'il ne faut pas être membre des sacs de tradition pour venir au congrès. C'est une évidence. Ce n'est pas... Oui, cher monsieur, la fraternité qui organise ce congrès, ce congrès n'étant rien hostile à la fraternité, il s'adresse à tous ceux qui considèrent que le christianisme fait partie intégrante de la France.
Ben, ça suffit,
nous sommes allés, oui, ça suffit. Nous sommes allés chercher des soutiens parce que nous estimons qu'un congrès, plus il y a de soutiens, mieux c'est. Exactement comme à la manif contre l'avortement, il y a eu divers soutiens de tous les bords, afin qu'il y ait le plus de monde possible, et que, et au fond, eh bien, nous nous retrouvions tous autour de ce thème.
Il y a invité le grand maître du Grand Orient de France, il aurait peut-être été plus cohérent que.
Enfin bon. Mais il n'aurait pas interdit aux francs-maçons de venir.
Ils auraient parlé de la laïcité.
Alors, cela dit, sur le fond, il y a quand même, c'est quand même la conséquence d'une. Ce congrès, il est la conséquence d'un phénomène politique et historique qui a un passé de la laïcité en France. Bon, c'est pas par hasard qu'il se déroule en 2005, c'est-à-dire c'est le centenaire.
Nous fêtons le centenaire
des lois de séparation de l'Église et de l'État.
L'Église et de l'État. Alors, je vais revenir sur cette histoire parce qu'il s'agit d'une page d'histoire de notre pays. La loi 1905, c'est vrai que nous avons du mal à la représenter. Au fond, on se représente mieux la Révolution française et ses désastres que la loi 1905. La loi 1905 fait partie d'un processus qui a duré 26 ans, qui est enclenché à partir de 1880 et qui perdure, disons, jusqu'à la querelle des inventaires de 1906. Alors pourquoi 1880 en France? Parce que tout simplement les républicains arrivent au pouvoir en 1877 et ces républicains tiennent à s'opposer à l'Église. Ils tiennent à s'opposer à l'Église, pourquoi? Parce que quelques années auparavant, le pape a publié le fameux Syllabus, qui est un texte contre les erreurs modernistes. En 1870, il y a eu le fameux Concile Vatican I qui a déclaré l'infaillibilité pontificale. Bref, il y a tout un mouvement en France, mais aussi en Europe, avec l'Allemagne, le fameux Kulturkampf dès 1872 qui interdit la Compagnie de Jésus et tous les ordres non hospitaliers. Il y a exactement le même mouvement dans la Confédération helvétique. Il y a le même mouvement en Belgique à partir de 1878 avec une politique de laïcité. Et en 1880, c'est notre cher Jules Ferry qui commence cette politique anticléricale.
Jules Laposta, c'est le titre du bouquin de François, non? Non. Il n'aurait pas écrit un...
Non, c'est... je ne me rappelle plus. Ouais,
Alors, il y a toute une chronologie, disons anticléricale, dès 1880, donc 1880, expulsion de la Compagnie de Jésus, obligation aux congrégations non autorisées de recevoir une sorte de droit à l'existence. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Bon, certes, 261 couvents sont fermés, plus de 5000 religieux partent en exil, il y en a environ 160 000, mais ça ne suffit pas. Alors on complète. En 1881, on oblige les cercles enseignants à obtenir une capacité. Mais ça ne suffit toujours pas. Alors en 1886, on dit que les instituteurs congréganistes devront être remplacés dans un délai de 5 ans par des instituteurs laïcs. Bref, il y a un mouvement de repli sur soi. Ce mouvement, peu à peu, l'Église va devenir de public elle va devenir, toutes ces congrégations qui, et tous les prêtres qui sont payés par l'État puisqu'ils vivent sous le régime concordataire, eh bien, peu à peu, on va vers un régime privé où les laïcs, bien évidemment, prennent une place importante puisque ces laïcs, des comités de notables, par exemple, se créent pour soutenir ces congrégations qui se trouvent dans le besoin. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. C'est une expulsion pure et simple entre 1870 et 1890. À l'exception de l'hôpital Saint-Louis et de l'hôpital et de l'hôtel Dieu, toutes les sœurs doivent plier bagage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, plier bagage? C'est au fond, soit abandonner sa vocation, ou bien partir à l'étranger. Et c'est peut-être le seul point positif. Un prêtre me disait un jour, il faut toujours savoir tirer du positif, du négatif. C'est peut-être le seul point positif de cette époque, c'est que beaucoup de congrégations sont allées, comme elles n'ont pu évangéliser la France, comme elles le souhaitaient, sont allées à l'étranger. Mais l'apogée, je pense, de cette politique anticléricale, ce sont les années 1899-1902, avec la fameuse loi des associations de 1801, qui est une loi d'exception, et on pourrait, je pense, dire une loi totalitaire, puisqu'il s'agit de mettre à part des groupes, mettre à part des personnes qui sont attachées à un mode de vie considéré par le pouvoir comme dangereux. Alors c'est l'époque où règnent les mensonges, où règnent les invectives contre ces religieux qui sont ignorants, qui sont fanatiques, qui sont manipulateurs, qui sont bien évidemment pédophiles. On trouve des perles à cette époque-là. Par exemple, le préfet du Finistère ordonne en 1902 une enquête sur la consommation d'alcool dans les congrégations. Voilà, on est en plein délire, on est en plein combisme triomphant. Voilà, alors les laïcs, fort heureusement, jouent un rôle, mais ce rôle est souvent localisé physiquement. Ils empêchent les perquisitions politiquement. Ils lancent des pétitions. Alors les évêques lancent une pétition en 1902, mais leurs auteurs sont déférés au Conseil d'État. Des sanctions administratives, on passe aux sanctions pénales, tout simplement. Donc, cette résistance, malheureusement, est localisée et finalement contenue. L'expulsion la plus connue, vous la connaissez, Serge de Beketch, il s'agit de l'expulsion des Chartreux, le prieur dont Baglin refusa l'évacuation et il fallut 5000 soldats pour vider la Chartreuse. Alors, il y a bien d'autres pages.
Y compris d'ailleurs les réserves de Chartreux.
Exactement. Il y a bien d'autres pages. On parle souvent des Chartreux, mais en Ille-et-Vilaine, ce sont les paysans, je cite un rapport de police, les paysans armés de gourdins, calmes et silencieux, à l'air inébranlable, qui protègent le noviciat des eudistes. À Annecy, les notables catholiques qui entourent les missionnaires de Saint-François de Sales, je cite un autre rapport de police, le comte de Certeau s'est placé devant le supérieur général et après s'être mis à genoux devant lui, a déclaré qu'il ne sortirait qu'après lui avoir passé sur le corps. Monsieur Gaujon, le supérieur, après les avoir engagés à se calmer, m'a prié de lui mettre la main à l'épaule en l'invitant à sortir au nom de la loi, ce que j'ai fait et je l'ai accompagné ainsi dans la cour de l'immeuble où se trouvaient 500 ou 600 personnes, dont de nombreuses femmes. Les femmes, dans cette lutte contre la République, contre ce rouleau compresseur républicain, jouent un rôle très important. Elles sont là, elles tiennent à défendre l'éducation religieuse de leurs enfants, et elles sont là, vous savez, que les femmes sont bien plus religieuses que nous.
Merci Christophe Payet. Voilà, c'est un aperçu de ce qui se dira au cours de ce congrès, qui est, on peut utiliser le mot, c'est le moment ou jamais, un devoir de mémoire pour nous les catholiques de France.
Il s'agit d'un devoir de mémoire, mais vous savez, cette semaine a paru l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, et la couverture était une excellente représentation de ce qu'est le congrès. À gauche, il y avait une photo noir et blanc où un policier, à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, regarde d'un air inquisiteur une religieuse enseignant les enfants, et à droite, il y a une manifestation de musulmanes défendant leurs droits. Eh bien, je suis vraiment attaché à l'idée que nous ne sommes pas des nostalgiques, nous voulons voir l'avenir et nous considérons que la catholicité est une idée d'avenir. C'est pour cette raison que j'appelle tous les Français, derrière Mgr Williamson, à venir à nous rejoindre à ce congrès.
Vous appelez tous les Français, point barre.
Le dimanche 6...
On y sera.
Dimanche 6, je voudrais préciser une chose purement technique, c'est que j'ai entendu dire qu'il fallait être membre des cercles de tradition pour pouvoir venir au congrès. Non, bien sûr, vous venez au congrès comme vous venez au cinéma, c'est 9 €, et vous pourrez assister à de nombreuses conférences et à plusieurs tables rondes sur cette question laïcité et chrétienté.
C'est pas la peine d'appartenir au ciné-club, donc.
Voilà.
Merci Christophe. Vous laissez votre place à l'invité de Cécilia, merci beaucoup. Cécilia, comment allez-vous? Vous êtes remontée de votre province
Très bien, merci.
Glacée.
Je viens d'arriver. Oh, c'est pas glacé. On n'a même pas de neige encore.
C'est pas ce que me disent vos voisins qui m'ont téléphoné tout à l'heure en disant nous sommes calfeutrés chez nous.
À Châtellerault, il y avait un peu de neige, mais plus au-delà. Donc,
Vous allez avoir la parole, et juste après vous, j'ai le signal, je donnerai la parole au docteur Oudret, qui vient de vous présenter, qui va devenir un habitué maintenant de cette émission, pratiquement, et qui vient nous présenter son livre fort intéressant, qui s'appelle « Le programme est, moi, me plaît énormément, parce que c'est manger, maigrir, et rajeunir. Rajeunir, ça m'intéresse moins, mais manger et maigrir, là, je voudrais bien qu'il me donne le truc. »
Quand ça commence à intéresser.
Alors, en attendant, docteur, on va parler de fleurs. Vous ne parlez pas de fleurs dans votre livre. Vous ne proposez pas des salades
parce que
fleurs,
je parle de phytothérapie. Donc, c'est une forme de fleurs. Puis, dans mes recettes, j'ai eu des recettes de cuisine, pas dans ce livre-là, mais dans d'autres, avec des fleurs, des pétales de fleurs dans les salades, etc.
On a peut-être, vous avez un petit indicatif musical. Eh bien, nous allons l'écouter pour présenter Cécilia.
Oui.
Ça vous ressemble tellement.
Je salue d'abord les auditeurs et je leur présente un peu tardivement mes vœux, puisque je ne suis pas venue depuis presque 2 mois, et donc qu'ils passent les 11 mois qui restent le mieux possible, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on peut dire cette année, non?
En janvier 2006, tant qu'on se débrouille.
Non, mais 11 mois sur 2005, on en reparlera pour 2006. Alors, bonsoir Laurence Fauquedet, je vous signale que Laurence est flamande. Alors, elle est directrice de la société Bouquet d'Objets. Elle va nous parler de ses créations. Elle est déjà venue il y a quelque temps, 2-3 ans, je crois, avec une merveille qui s'appelle La Rose Postale et qui est toujours, qu'on peut toujours envoyer à ses amis. Je vais commencer par faire une annonce, alors qui ne déplaira pas au docteur à côté de moi, parce qu'il s'agit d'un congrès de médecine douce. Le salon du bien-être. Alors, je ne vais pas exposer tout ce qui va s'y passer. C'est le 21e. Il se tient du 10 au 14 février à la porte de Versailles, Paris Expo, hall 2-2. Alors, de 10h30 le matin à 19h. Et j'en parle, entrée 8 € et tarif réduit 5 €. J'en parle parce qu'il y a la conférence d'un autre médecin que vous avez déjà reçu ici, Serge, le docteur Willem.
Je le fais souvent, oui.
Et sur le thème, les antibiotiques naturels. C'est un livre de lui tout récemment paru. Vous en avez peut-être déjà parlé, je ne sais pas. Et cette conférence aura lieu à 14h le jeudi 10 février. Il y aura aussi beaucoup de l'aromathérapie, la technique dont vous parliez tout à l'heure,
La phytothérapie,
et alors beaucoup de choses sur les parfums et tout. Aussi, oui, tout est là. Voilà. Alors, pour les auditeurs qui seraient intéressés, parce qu'il doit quand même y en avoir quelques-uns, je vais vous donner le numéro de téléphone pour se renseigner. Le 01 45 56 09 09. 01 45 56 09 09. Alors maintenant, je vais présenter quelques livres rapidement et ensuite nous passerons à Laurence.
Je vous interromps une seconde parce qu'il y a un message qui est tellement drôle que je vais seulement le lire. Ça s'adresse non pas au marquis, mais c'est quelqu'un qui prend le parti du marquis, plus ou moins. et qui s'adresse à Christophe Maillot, qui lui dit: votre affaire est mal embringuée, je vous l'ai déjà dit, vous avez eu tort de faire sponsoriser votre congrès par une marque de whisky. Et vraiment.
Ah, Monseigneur Williams.
Nos auditeurs ont du talent.
C'est mignon.
Bon, c'est pas manqué à la.
Oh non, respect, pas du tout, bon. D'ailleurs, je crois qu'il a suffisamment d'humour.
Oui, je pense que c'est. Et voilà, bravo. Bon, je vous rends la parole.
Alors, aveu tardif, agenda tardif, je l'ai reçu trop tard pour le présenter quand j'ai présenté les autres. Un agenda 2005, publié par les éditions Plume de Carotte. Vous savez que j'ai une petite tendresse pour ces gens qui font toujours des choses ravissantes. Une année de secrets de plantes. Alors, ça se présente comme un herbier, avec évidemment tous les mois de l'année. Toutes les plantes sont présentées en leur petite fiche d'identité. On donne des recettes de cuisine. Il y a la représentation d'un herbier ancien, les noms populaires de la plante et puis son langage. Alors, le langage des fleurs et des plantes, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et surtout, il y a une chose merveilleuse qu'il n'y a pas dans tous les agendas, c'est l'année 2006. Et moi, je trouve ça très pratique. Quand, en fin d'année, quand on commence à noter ses rendez-vous, et même pour les grands événements. Alors ça vous intéresse particulièrement, l'état de la Lune. Alors c'est à offrir.
Oui, là,
à...
Je voulais le dire pour nos auditeurs, c'est même pas de l'hébreu, c'est une langue inconnue, parce que vous avez parlé de quelque chose que le docteur vous montrait, et comme on n'a pas la télévision, personne ne l'a su.
Non,
parce que je
montrais,
c'est
les phases de la Lune.
Sur cet agenda, il y a les lunes sont
indiquées.
Et ça se fait de moins en moins.
C'est pour cultiver avec la Lune.
Et c'est très intéressant de savoir quand on est en Lune montante, en Lune descendante.
Pour sa santé.
Pour sa santé.
Et alors là,
il y a des gens qui sont malades très régulièrement, deux jours ou le jour de la pleine lune. Il y a des légumes et des fruits qu'on doit récolter à la lune montante, d'autres à la lune descendante.
Tout ce qui est en terre,
la médecine ayurvédique repose là-dessus.
Tout ce qui est en terre doit être récolté en lune descendante, et ce qui est en l'air doit être récolté en lune montante.
Alors, oui, c'est ça, très bien.
Il le vaut 12,50 €. On le trouve dans les librairies, aussi dans les jardineries botaniques, qui sont très très bien répandues dans l'est de la France. Et bon, c'est bon si vous n'avez pas encore d'agenda, ou si vous avez une amie qui oublie toujours ses rendez-vous, c'est à lui offrir, même un peu tardivement. Et maintenant, je vais présenter quelques livres pour les enfants, puisque vous savez que les vacances de février sont très proches. Tous ne vont pas à la montagne, donc on va penser à eux. Alors, toujours chez Plume de Carotte, c'est une coïncidence. Une nouvelle série de carnets sur la nature, dont les deux premiers sont là. Alors, le premier, devenons éco-citoyens. Ça, c'est un mot que même mon ordinateur n'a pas reconnu, mais ça ne fait rien. On voit à peu près ce que ça veut dire.
Déjà être malade, là.
Et la nature à notre porte. Il y a donc trois compères, Julien, Magide et Lisa, auxquels il arrive des tas d'aventures et auxquels on propose surtout des tas d'activités. Alors, par exemple, dans éco-citoyens, on a, par exemple, le chapitre dans ma maison. L'énergie épuisable, et on vous apprend à faire une gourde de camping avec des moyens très simples. Dans ma ville, on vous apprend ton chien. Apprendre son chien à ne pas aboyer quand vous n'êtes pas là, pour ne pas déranger les voisins. Ce sont des petites choses très simples.
Facile, avec deux, trois coups de pied, c'est vite filmé.
Non, ça marche pas. Et puis alors, à la fin du carnet, parce que ce sont des carnets qui coûtent 4,50 € chacun, à toi de jouer, il y a tout un questionnaire auquel les enfants peuvent répondre. Mon parcours nature, mon parcours alimentation.
Oui, il y a des enfants, vous avez dit les prénoms, c'est...
Alors, Julien, Magide ou Maguide, je ne sais pas comment
Magide
ça se
Magide noir, en l'occurrence.
Non, un petit peu...
Oui, enfin, sympathique.
Elisa, vous voulez feuilleter?
Oui.
Et alors, la nature à notre porte, c'est la nature en ville, puisque quand même la majorité des enfants habitent la ville. Alors, par exemple, météo des villes, bon, on vous apprend le soleil, l'ombre et la lumière, on vous apprend à fabriquer un cadran solaire pour lire l'heure solaire sur votre balcon, c'est pas même pas à votre fenêtre. Les animaux des villes, on vous apprend à écouter le soir les grenouilles et les crapauds.
Je voudrais bien savoir où ils peuvent entendre les grenouilles et les crapauds le long du périphérique.
Il paraît qu'en ville, justement, si on fait attention, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne peut penser. Ça, c'est évidemment bon. Ça risque de se répandre un peu, ça, hélas. C'est pour ça que je suis ravie quand on réinaugure une église, comme c'est arrivé à deux pas de chez moi il n'y a pas longtemps. Saint-Pierre de Chauvigny.
Bien fréquenté, j'espère.
On n'y célèbre pas d'office, mais je la fleuris, figurez-vous.
Ah, oh, bah écoutez.
Voilà. Ça, c'est un privilège. Alors, aussi, par exemple, les murs reverdissent, on invite les enfants à découvrir des murs sur lesquels il y a des végétations. Et je vous assure qu'on en trouve.
Ah, bah oui.
Et savez-vous que le lichen peut vous indiquer si l'air est pollué ou non? Moi, je viens de l'apprendre.
Bien sûr, c'est une des plantes les plus fragiles.
Alors, si l'air est pur, il y a beaucoup de lichen, ils sont chevelus. Et si l'air est pollué, il y en a peu, ils sont en croûte. Donc, quand vous voyez des petits lichens en croûte, vous savez que c'est mauvais signe. Vous savez ça déjà?
Le lichen, c'est la première plante qui disparaît quand c'est la pollution.
Même principe, questionnaire, tout à fait. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très mignon et qu'on peut
bien
occuper les gamins avec ça.
Le nord aussi. Oui. Si vous êtes perdu.
Ah,
il pousse du côté nord.
Il pousse du côté nord.
Ah, c'est intéressant ça.
Non, il me semble que c'est nord, oui, avec souvenir de mon scoutisme.
Alors, dans 4,50, aux éditions Plumes de Carotte, dont je vais donner l'adresse parce que,
oui,
bon, je pense qu'on les
trouve. Un joli nom, Plumes de Carotte, j'aime bien.
J'aime bien, puis les gens qui font ça sont tellement sympathiques. Vous avez vu toutes les jolies choses que j'ai déjà apportées?
Oui, mais jamais donné d'ailleurs.
Mais vous n'avez plus d'enfants.
Comment j'ai pas d'enfants? J'ai petits
Vous avez des petits enfants, mais moi aussi.
Je suis trop rentable.
D'accord. Mais vous aurez peut-être quelque chose là tout à l'heure. Bon, alors, boîte postale. 1121 31036 Toulouse, CEDEX. Et je vais donner le téléphone 33 05 62 87 59 14. 33 05 62 87 59 14. Est-ce qu'il faut commencer à donner les adresses internet là maintenant?
Oui, donnez ça parce
alors,
que de plus en plus.
Plume de carotte en un seul mot, et @wanadoo.fr. Il faut répéter?
Oui.
Plume de carotte.
Au singulier d'un seul mot?
Oui. @wanadoo.fr.
Wanadoo, c'est W-A-N-A-D.
Oui, oui. Oui. Alors là, une petite, un petit joyau.
Vous savez, docteur.
Je le protège parce que je l'ai acheté pour l'aîné de mes petits-fils qui va entrer en sixième en septembre prochain. Ça s'appelle Conte-moi Pompéi. C'est d'Alix Barbé, qui est archéologue. Et c'est publié par l'association des publications chauvinoises, qui sont des gens extrêmement actifs. Je vous ai d'ailleurs passé une de leurs œuvres. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé sur les images religieuses.
Ah oui, on
n'en
a pas encore parlé.
Il faut
mais
le faire, hein, parce
c'est
que.
Super, ouais.
Et donc, c'est une archéologue qui a ses petits-enfants en vacances et sous forme d'une petite semaine d'histoire racontée, elle a décidé de leur raconter une histoire vraie et l'histoire de Pompéi. Alors, elle ouvre le livre sur la lettre de Pline le Jeune sur la mort de son oncle lors de la fameuse éruption. Et puis, à travers les conversations et les questions des enfants, on reconstitue toute la vie romaine. La mode, la publicité, les jeux, les jouets, les mets et tout. Alors nous, on peut rattraper ça parce qu'il y a pas mal de choses sur les fleurs et sur les arbres, puisque quand même, on aimait beaucoup les jardins, il y a des guirlandes et des arbres partout. Elle donne, par exemple, une petite recette, là, je vais pas la lire en entier parce que ça serait trop long, mais c'est très amusant parce qu'elle donne les mesures en... Alors, il y a deux... Je ne sais pas si on dit zémine ou émine de lait et une once de farine ou quelque chose comme ça. Et elle donne évidemment chaque fois la signification. Alors, tous les noms sont indiqués. On dit qui était la personne dont on parle, que ce soit un personnage historique ou un personnage de la mythologie. Et tous les mots un petit peu compliqués sont aussi définis ensuite. Et vous pouvez
ça, c'est un ouvrage qui considère les enfants comme des êtres humains intelligents.
Il est d'un raffinement et d'une présentation superbe. Alors c'est Max Aubrin.
Alix Barbé.
Voilà, Alix Barbé est l'auteur. Max Aubrin est le directeur des publications et conservateur des musées de Chauvigny. Et alors, les petits dessins, clins d'œil qui rappellent un petit peu, qui font une petite concordance entre la vie romaine et la vie actuelle, par exemple les passages piétons ou le chien de garde, sont de Jean-Charles Sédel, que nous avons, vous savez, qui nous a parlé des plantes préhistoriques au mois d'août.
Puis on parle de Victoria, voilà. Je vois un dessin avec un tag sur un mur qui dit « Bonjour Victoria, puisses-tu où que tu sois éternuer heureusement ». Sternotaté.
Et alors, il coûte 25 euros, et je vais donner l'adresse des publications chauvinoises, où le commander. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, parce qu'il a eu énormément de succès, et ils avaient un peu pêché par modestie. Ils n'ont pas fait un gros tirage, et c'est très dommage, parce qu'il a un succès fou. Oui, ça, c'est la dédicace que j'ai eue.
Alors, l'adresse, donc
pour Jean-Céric. Alors, vous l'avez dans un papier qui est dedans, là, que j'avais préparé.
C'est un très très joli album au format italien.
C'est vraiment, c'est vraiment un très beau cadeau à faire si on a un petit temps.
Le prix, s'il vous
plaît. Alors, 25 euros.
25 euros.
Alors, Association des Publications... Oui, je vous en prie.
C'est un bel album. Hein,
Association des Publications Chauvinoises, boîte postale 64, 86 300 Chauvigny, téléphone télécopie 05 49 46 35 45, 05 49 46 35 45, et le courriel c'est musee, puisqu'on ne met pas d'accent, oui. Musée au pluriel mais sans accent, point Chauvigny, arrobase, Aliénor, c'est pas Aliénor d'Aquitaine bien sûr, point org. Je redis, oui. Musée, point Chauvigny, arrobase, Aliénor, point org. Et je pense que vous ferez grand plaisir à vos chers petits. Alors ensuite, pour introduire Laurence, une petite amusette, un énième, dites-le avec des fleurs, de Patrick Mulan, que nous avions reçu il y a quelques années pour une encyclopédie du jardinage, où il avait surtout parlé du fleurissement des balcons et des fenêtres. Bon, ben alors il redonne sa version, il y a environ 200 plantes, et bouquets, parce que il fait un petit chapitre sur les bouquets, quand on a un certain nombre de choses à dire au... à quelqu'un qu'on aime ou qu'on veut conquérir, il y a telle ou telle fleur qui s'impose. Il y a des tas de petites notations, le saviez-vous, l'histoire, et puis alors souvent aussi des citations, des extraits de poèmes. Dans les plantes aphrodisiaques, il met l'angélique angélique. Bon, c'est comme ça, moi je la voyais comme une fleur plus douce que ça, mais ça ne fait rien. Il est très joliment illustré, bon, il est très, très rigolo.
C'est une fleur de bonne sœur, l'angélique.
Oui, c'est aussi une fleur poitevine, figurez-vous.
Il existe une commanderie de l'angélique, hein, et justement, avec des banquets, des tas de trucs, et avec un grand maître, une grande prêtresse,
et tout à base d'angélique.
C'est intéressant.
Et ça a la réputation, l'angélique, justement, d'être assez paillard.
Parce que moi, je me souviens de mes filles.
L'angélique se fait confire pour faire des gâteaux. On en fait du vin d'angélique, qui est stimulant et qui améliore les performances.
Je me permets de dire ça, je fais partie de la commanderie de l'angélique.
Ok, c'est d'en cultiver dans mon jardin.
Alors, je suis content. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas réunis.
Moi, je me souviens de mes filles à qui on avait offert une vache en angélique confite et qui l'ont oubliée dans un gîte rural chez des bonnes sœurs, justement en Rouergue, et elles ont dû bien rire en ouvrant le réfrigérateur en trouvant la vache. Alors, il coûte 18 euros et il est publié chez Larousse. Alors, nous emmenons à Laurence Fauquedet, qui est anciennement...
Comment ça s'écrit votre nom, Fauquedet ?
F-O-C-K-E-D-E-Y.
Alors, c'est une vraie Flamande. Moi, je suis une Flamande d'adoption, mais elle, c'est une vraie Flamande. Elle est anciennement architecte d'intérieur. Elle a travaillé pour la région parisienne aux espaces verts, région Île-de-France, aux espaces verts. Et vous avez même, alors, vous venez de m'apprendre ça, publié un livre.
Oui, sur une sélection de jardins en Île-de-France. La route des jardins.
La route des jardins, voilà.
C'est pas le guide que donne la ville, la mairie ici ?
Non, c'est la région d'Île-de-France.
Il y a quelques années déjà.
Il y a quelques années, oui.
Voilà. Et elle a créé sa propre entreprise qui s'appelle Bouquet d'objets. Alors, à vous.
Voilà, donc j'ai créé, on va dire, toute seule, en tant qu'artisan, on va dire, au départ, avec une petite boutique à Paris. Et puis, ça a duré quelques petites années comme ça. Et depuis à peu près un an et demi, ça a pris une autre forme. Donc, j'ai des gentils associés. J'ai de l'aide pour fabriquer. Et on travaille dans un espace réfrigéré qui est ce qu'on appelle un cachant de carie pour fleuristes. C'est-à-dire qu'on vient chercher ses fleurs dans cet endroit. Donc, il y a des approvisionnements quotidiens. Donc, on travaille dans un contexte technique, on va dire, beaucoup plus performant. Et on vend à travers donc notre site internet sur toute la France.
Voilà, ça on donnera toutes les... Alors, vous travaillez avec les particuliers et avec un certain nombre d'entreprises, d'enseignes, disons.
D'enseignes qui sont interpellées par différents thèmes.
Par exemple, le bouquet câlin.
Alors, en fait, on travaille avec, par exemple, on a lancé un bouquet naissance, qui est une très bonne occasion d'envoyer envoyer et des fleurs et des cadeaux. On travaille avec du pareil au même, donc qui fait prise de commande en boutique. Donc les gens, par leur site ou par leur boutique, peuvent commander un bouquet qu'on vend évidemment sur le site directement, qui est un bouquet doudou ou trousseau, donc qui est un petit kit pour la maman et le bébé, donc avec un biberon, une petite serviette et un petit doudou.
Donc, le bouquet d'objets, c'est ça, c'est un bouquet
avec des objets, voilà, composé dans le bouquet. C'est pas à part, c'est vraiment composé dans le bouquet. Donc c'est avec des roses roses pour les filles, donc là pour le langage des fleurs, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est limpide, et avec des choux pour les garçons.
Voilà. Pour les garçons.
Donc ça c'est un thème qui part évidemment très facilement, parce que dès qu'il y a une naissance, c'est un cadeau beaucoup plus festif qu'une petite boîte, on va dire. Et on en voit dans toute la France, donc ça permet aux gens de correspondre.
Et c'est vous qui avez inventé cette...
Bah oui, tout est créé. Donc il y a différents thèmes, donc on arrive à mettre des objets plus périlleux dans les bouquets qui sont les bouteilles de champagne par exemple. Donc là on travaille beaucoup avec un très bon champagne Gosset, ou s'il y a un autre très bon champagne qui est Jacquard, et on envoie. Donc il y a la bouteille, les deux flûtes, enfin un côté dégustez-le tout de suite quoi, avec selon les compositions, beaucoup de roses, des bouquets. On joue beaucoup sur l'emballage aussi, le bouquet, les roses sont expédiées les pieds dans l'eau. Donc voilà, donc on a ça correspond, on va dire, plutôt à des thèmes événementiels. C'est à chacun d'y trouver un peu un sens.
Saint-Valentin, vous faites quelque chose par
alors Saint-Valentin, on évidemment
va y venir, il y a quelque chose en préparation
évidemment, mais on a aussi donc des thèmes plus insolites. On a un thème, voyez, on a un bouquet avec Burton qui est un bouquet de chaussettes, voilà. Donc pour la Saint-Valentin c'est mignon aussi, parce que finalement il y a un petit côté sentimental dans l'envoi. On a aussi on a des bouquets vins aussi qui vont être ça va être merveilleux, en prise de commande chez Nicolas là via Intermagnum, qui donc expédie beaucoup de coffrets. Donc là c'est un coffret plus romantique, avec toujours une bonne bouteille choisie, avec des roses pour une version plus bonne fête maman, on va dire. Et
le docteur qui assure le service après-vente vient de me souffler à l'oreille, et j'y pensais. Et pour les enterrements, qu'est-ce que vous faites?
Alors justement, c'est un sujet avec lequel je suis pas assez à l'aise, on n'a pas encore trouvé de formule. Je crois qu'on cherche pas en fait pour
l'instant. Et un bouquet avec des feuilles de sécurité sociale.
Alors on a une autre formule qui a presque le même rôle que la sécurité sociale. En fait, on a lancé un bouquet tout récemment, un bouquet chance. Donc là, c'est ni une naissance, ni un mariage, ni c'est un thème qui est ouvert à tous les associations, le bonne année, les mariages, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est un bouquet qu'on a lancé avec la Française des Jeux. Alors, est-ce que vous permettez que je fasse quelque chose de pas très radiophonique?
Oui, on va le regarder.
Comme ça.
Oui, c'est ça.
C'est formidable.
Oui, c'est très drôle ça. Et il est nouveau, hein, celui-ci.
Il est dans une grosse boîte en carton.
Oui, je suppose que c'est dans laquelle il va.
Ah, c'est superbe. Et on fait de la radio en couleur.
Alors, très rose. Très rose.
Vous avez un emballage
vert et rouge.
Très joli.
Très joli avec des roses blanches. Non,
13.
Il y en a 13.
Et
13 salades.
Il y a 5 tickets à
gratter.
Des tickets à gratter.
Alors, il y a aussi une petite coccinelle.
Il y a une coccinelle.
Une coccinelle, elle a un trèfle à quatre feuilles.
J'ai gagné la coccinelle.
Et un trèfle à quatre feuilles qui est un véritable trèfle à quatre feuilles immortalisé. Donc, et au milieu. On espère permet aux tickets de
rappeler. Et alors, contrairement aux enveloppes de tickets qu'on trouve dans les bureaux de tabac, après on garde quand même quelque chose.
Bah voilà,
de tabac,
voilà.
Là il reste des rôles,
ce sont des objets qui techniquement sont pas très compliqués à intégrer. On a des choses un petit peu plus compliquées.
Pourquoi vous avez choisi un emballage rouge et vert là? C'est le hasard?
C'est l'idée du jeu.
Oui, parce que je veux dire pourquoi. Je pense que vous pourriez aussi vous adresser alors au PMU, parce que le rouge et le vert sont les couleurs de la casaque de l'Agacan. Pour jouer aux courses, c'est pas mal.
Devenez aussi risqué la gueule quand acheter un bouquet. Alors, comment ça s'appelle?
Alors, ça, c'est le bouquet chance. On a trouvé un thème qui s'approprie à beaucoup de moments de la vie. Et puis, on a aussi, donc, je n'ai pas fait le tour, mais bouquet beaux-arts pour ceux qui aiment peindre et dessiner. Il y a le bouquet outils, même pour les hommes.
Il n'y a pas le bouquet fumeur, non?
C'est
bien.
Il y a quand même picoleur, parce qu'il y a les bouteilles de champagne.
Voilà, on est assez gourmand quand même. Il y a ce thème qui est
aussi. Avec des cigares aussi.
Avec des outils, donc là c'est plus cuisinez-le dans une ambiance un peu artichaut, poivre rose, enfin avec des choses.
C'est un bouquet à cuisiner donc.
Un bouquet presque à cuisiner, il se trouve qu'on peut difficilement dire aux gens, et ça monsieur me contrariera pas, on est artichaut qui a été piqué avec un tuteur et ensuite cuisinez-le, on peut pas difficilement.
Non mais l'idée est là.
L'idée est là, voilà, c'est l'illustration du thème. Donc on a à peu près une trentaine de thèmes comme ça, puis on a d'autres produits, donc la fameuse.
Soit le bouquet choucroute.
Elle ne sait pas encore si des clients ont gagné, elle dit non, peut-être pas osé se faire connaître par discrétion.
Ils sont partis aux Seychelles,
ne sache pas qu'on a gagné le gros lot. Mais
moi, j'ai offert à à la Gardienne. On offre tous les ans au moment des étrennes à la Gardienne. On met les étrennes dans une enveloppe avec les tickets. Et là, cette année, elle m'a dit, monsieur, la prochaine fois, plus donner plutôt l'argent qu'elle est.
Et alors, elle est la créatrice d'une chose qu'elle était déjà venue présenter et que moi je trouve absolument extraordinaire, c'est la rose postale.
Ah oui.
Alors, vous recevez de la part de qui vous l'envoie ceci.
Voilà, ça c'est un...
avec un petit message.
Voilà, c'est le rouleau qui vient de tomber là.
Et c'est une rose qui dure très longtemps, qui est absolument magnifique en général. Et je trouve que ça, alors, vous savez, les chambres de clinique ou de maternité, vous envoyez un bouquet, on ne sait jamais où le mettre, vous envoyez ça.
Oui, juste une rose, c'est le même très jolie, un très joli rose.
Oui. Voilà. Donc les gens choisissent le message qu'ils veulent inscrire ici.
Et la couleur de la rose aussi.
On a des aspirations absolument fabuleuses. Je reconnais qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'idées.
On pense à l'héritier qui envoie ça à sa vieille tante en disant voilà la première rose, le bouquet, la couronne suisse.
C'est un geste simple, c'est presque le message qui prime. Et la rose lui donne une autre.
Et ça, je crois que ça marche très bien.
Ça marche très bien.
À l'heure du jardin.
Et alors, l'avantage, c'est que le tube, quand
ça
on
fait loue, vase.
Oui, c'est un tube, c'est un vase. C'est plus sans problème. Donc, comme
c'est dans l'oasis.
Et à l'arrivée, que ce soit pour une fête dans une entreprise, ou pour quelqu'un qui est à l'hôpital, qui n'a pas de place, ou pour. C'est moins, on va dire, conventionnel qu'un bouquet.
Ça évite de massacrer une bouteille d'eau de Vittel pour mettre la rose.
Voilà, ou pour quelqu'un qui déménage. Vous voulez envoyer toujours un petit message de bienvenue. Et si vous envoyez un bouquet, ça peut vous mettre, non pas de vase, une plante, ça encombre. Ça, c'est
voilà, merveilleux. Merci pour le dîner. Merci.
Oui, oui, aussi.
C'est très bon idée.
C'est fort.
Alors, où est-ce qu'on peut se procurer? Où est-ce qu'on peut acheter ça?
On va le dire, là. Après, on reviendra à d'autres. Alors, donc, un bouquet d'objets. Alors, on donne l'adresse route des Alluets, A2LUETS, 78-630 à Orgeval. C'est leur nouvelle adresse.
En fait, c'est l'adresse de l'atelier, donc le public est moins concerné. Non.
Alors, après, téléphone.
Oui.
01 39 75 42 42. 01 39 75 42 42. Et le fax, la télécopie, pardon, c'est la même chose, mais 42 40. Et alors, ensuite, les adresses e-mail et W. contact@bouquets-objets.com contact@bouquets-objets.com et www.bouquets-objets.com.
Alors moi je donnerai toujours le même conseil. Vous utilisez Internet, faites une chose extrêmement simple.
Vous voulez les
tapez...
relire,
non, c'est pas la peine. Vous prenez Google, le moteur de recherche Google, qui est une pure merveille, et vous tapez bouquet d'objets, et puis vous allez sortir tout de suite l'adresse, ça sera beaucoup plus simple. Et vous cliquez sur l'adresse, voilà.
Et alors à ce moment-là,
vous avez un site où vous montrez les échantillons.
Aussi,
en fait, le site voulait dire matériel, non pas virtuel.
Un site virtuel.
Un lieu.
Il n'y en a pas.
Il y a un site virtuel où on peut
le site, voilà, où on peut commander. Sur chaque bouquet, il y a à peu près trois gros plans, un descriptif.
Voilà. Donc la commande, on l'a fait à partir du site.
On l'a fait à partir de...
Et alors, la question qui fâche...
Les prix. Alors, c'est très variable selon les objets.
On va dire, sur le site, il y a plein d'autres produits qui vont, on va dire, de 15 à 100 euros. Les bouquets, ça va de 46 à peu près 100 euros. Il y a toujours 9 euros incompressible de Chronopost, donc tout taxe pour le client, pour expédier ça n'importe où.
Oui, donc c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher qu'un bouquet simple.
Non. Les gens sont sur plusieurs dimensions. Mmh. C'est vrai que c'est difficile de calculer, de se comparer à des bouquets. Nos diamètres n'ont pas grand-chose à voir avec... c'est pas ce qui compte, quoi.
Et alors, pour la Saint-Valentin toute proche, il y a une nouveauté.
Voilà, il y a une nouveauté. C'est un... Voilà, je ne voulais pas apporter parce qu'il est en cours de création, mais on a donc un bouquet câlin. Pas facile de communiquer sur la Saint-Valentin avec tous les gros cœurs rouges qu'on voit partout.
Oui, ça...
Donc, c'est un bouquet câlin, un bouquet très tendre.
Dans les triperies, maintenant.
Il y a deux petits ours aux longs bras qui s'enlacent au cœur du bouquet. C'est ça, ils noyaient dans les roses, roses blanches, roses rouges, roses roses. Voilà, c'est un bouquet très mignon. Franchement, quand on le voit, il est assez craquant.
Voilà. Donc, Et puis alors, encore une nouveauté pour les fleurs isolées.
On présente des fleurs un peu différemment, des fleuristes plus classiques. On s'est amusé à créer un emballage qui permet toujours de communiquer. On est toujours un petit peu dans cet univers-là. Donc là, pareil, le langage des fleurs est très simplifié. Il suffit de savoir lire. On a une carte message qui se glisse donc dans un vase en PVC transparent. Donc ça, on a quelques petits produits qu'on va lancer sur le site pour expédier. Mais évidemment, tout l'aspect intéressant de ce produit, c'est qu'il est étanche et qu'on peut l'emporter de chez le fleuriste, puisqu'on a des fleuristes qui le revendent. avec de l'eau, puis des petits matériaux, ça peut être des galets, des coquillages, on peut y mettre des orchidées.
C'est très joli, très très joli.
De chez soi, avec de l'eau.
Voilà. Vous êtes en train de flinguer Interflora.
Je pense pas.
On vient de nous passer un message, il y a un auditeur qui dit le rouge et le vert sont les couleurs de la Légion. Mais je me vois pas offrir ça à un légionnaire, ce serait peut-être mal vu quand même.
Ça adoucir les mœurs.
Pas forcément, très très bien.
Voilà. Voilà, donc en fait, non, on ne fait pas concurrence à Interflora, c'est des productions de fleuriste à fleuriste, donc ils ne sont pas calibrés, nous ils sont détaillés sur le site et parfaitement conformes à la réception. Quoi.
En tout cas, ce que vous nous avez apporté, merci de nous avoir montré c'est ça, super. C'est ravissant et c'est très...
Merci de le laisser.
Je vais le gratter discrètement.
Emporter les billets au moins, parce que ce serait...
Si vous permettez, ça ce sera pour Daniel.
Ah bah voilà.
Je vais lui remettre son très gentil. Merci
beaucoup, voilà, ça y est.
Daniel sera ravi.
J'ai la patte graissée maintenant.
Oh. Ah, oh bah écoutez, quand je vous offre rien, vous vous plaignez, quand je vous offre quelque chose, vous dites que je vous
offre. Parce que je suis mal foutu,
c'est mon caractère. Est-ce qu'on peut ajouter un mot? Je trouve que vous venez nous parler de fleurs, d'objets charmants, etc. Et on a la plus ravissante jeune fille qui soit dans le studio, ça va formidablement bien avec votre action.
Je vous laisse le choix.
C'est bien dommage qu'il n'y ait pas télévision courtoisie, là, vraiment. Oui, entre les fleurs et vous.
Quand on nous voit tous les deux, ça nous console assez rapidement.
La chaîne cryptée.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter ces
petits moments. Voilà, et puis j'espère surtout qu'elle va avoir beaucoup de succès parce qu'elle
va en parler. Une
inventivité,
ce qui est bien, c'est d'avoir lancé ça.
Extraordinaire, non?
De façon artisanale, voilà. Au début, c'est voilà. Une jeune femme qui a montré quelque chose toute seule, et puis maintenant.
Avoir des idées, ça, c'est formidable.
Très joli. Alors, je vais redonner l'adresse internet au moins. Donc l'adresse internet, c'est www.bouquets-objets.com. Voilà. C'est très facile, on ne peut pas faire plus ça.
Je donne rendez-vous aux auditeurs le 17 mars, je crois. Février, pardon. 17 février.
Merci Cécilia, vous avez toujours des invités très, très agréables.
Ah oui, c'est un vrai bonheur.
Des beaux livres, des belles fleurs, des belles jeunes femmes.
J'aurais voulu avoir quelqu'un, mais qui ne viendra pas, c'est Jean-Marie Pelt, parce qu'il ne se déplace plus. Il habite Metz, mais j'ai un très, très beau livre de lui que je présenterai le mois prochain, qui est magnifique.
Très bien. Eh bien, nous vous attendrons le 17 février. Bon retour à Chauvigny.
Merci. Oh, mais attendez, je suis là et à Versailles pour quelques jours. Je repars que dimanche.
Non, nous essayons, on a la chance de vous voir.
Merci d'être venu avec cette charmante jeune fille.
Cher docteur.
Cher ami.
Je vous ai demandé de venir parce que votre livre est en programme alléchant. Manger, maigrir, ça déjà, c'est formidable. J'ai dit, si en plus on peut rajeunir, tout va bien. Et vous êtes, vous savez, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que j'invite très souvent des médecins, mais je les sélectionne car ils sont quand même des publicités vivantes pour leur livre. Vous vous souvenez de...
Ah oui, hein, oui, le monsieur qui veut pas qu'on mange de fromage, voilà. Oui, il était frais comme un bébé, oui.
Qui a écrit un bouquin de conseils alimentaires, et qui est vraiment... Moi, je croyais qu'il avait 15 ans de moins que son âge.
Ah oui, que son âge, oui.
Mais vous, j'ai pareil, vous êtes... on voit un homme dans la force de l'âge, et pas seulement dans la force de l'âge, j'ai vraiment l'impression qu'il grandit. Mais il me dit que non, il n'a pas grandi.
Moi, j'ai eu l'impression d'avoir le général Dourakine en Chine.
En plus. Alors, vous vous êtes rencontré en Chine?
Oui.
Voyez-vous.
Oui. Pendant la campagne de Chine.
Pendant la campagne de la baronne.
La campagne de la baronne.
Alors, vous recevez une clientèle, vous écrivez des livres, vous allez vous promener en Chine, vous êtes plusieurs ou...
Ta promenade en Chine a été courte. Oui.
Alors, ce livre, quelle est son origine? Pourquoi avez-vous...
Pourquoi j'ai fait ça?
Alors, l'idée de faire ça.
J'ai revenu sur le livre précédent que j'avais fait avec Karl Lagerfeld.
Ah oui, il faut vous penser à dire que vous êtes l'homme qui a ressuscité Lagerfeld.
Absolument. Ressuscité, je crois que c'est le mot. Donc, j'ai fait un livre dont tout le monde a entendu parler plus ou moins avec Karl il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, je ne sais plus. Mais ce livre était quand même un peu un livre de circonstances. Enfin, la preuve, c'est que la circonstance était Lagerfeld. Et je n'ai pas pu vraiment expliquer ce que j'avais à expliquer comme je le souhaitais pour diverses raisons qui sont des raisons d'ordre technique et non pas personne m'a empêché de faire quoi que ce soit, mais techniquement j'ai pas pu. Donc j'ai pensé qu'il était intéressant de revenir 3 ans après sur le sujet là pour rentrer vraiment dans le détail et pour dire aux gens le fond de ma pensée sur la façon dont toutes ces choses-là doivent être organisées, menées, conduites pour avoir le maximum de satisfaction. Voilà pourquoi je suis revenu sur ce sujet. Là, cette fois-ci, je pense avoir fait un ouvrage complet.
En fait, sans vouloir être désagréable à votre endroit, ni à celui de Karl Lagerfeld, vous avez fait un livre pour que les milliardaires, les gens normaux, puissent bénéficier des avantages des milliardaires.
Oui, je pense qu'on peut dire quelque chose comme ça.
Je crois que Lagerfeld, ça m'a
fascinant.
Cet homme qui était imposant, qui avait de l'allure, mais enfin, qui était quand même un peu bibin d'homme. D'un seul coup, on a vu sortir, on avait l'impression que, vous savez, ça m'a fait penser à l'histoire du gosse qui voit un sculpteur sculpter un cheval et il dit au sculpteur comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans la pierre et vous, comment saviez-vous amusant, qu'il y avait ça. Un hobereau prussien dans
Souvenez-vous, je vous l'avais dit, le jour de l'enterrement de Jean-Luc Lagardère, quand il est entré discrètement dans l'église Saint-François-Xavier,
il y a eu un silence. Ah,
oui, quand même.
Donc voilà, maintenant c'est la c'est exactement le dessin. Oui.
En partant, si vous voulez, Karl, c'est un exemple emblématique. Bon, tout le monde le connaît, personne ne le connaît, mais tout le monde l'a vu.
Vu et revu.
Donc, chacun pense avoir une idée sur ce qu'il a fait, pourquoi, comment. Bon. Je suis mieux placé que tout le monde pour savoir comment ça s'est passé. Et comment ça s'est passé avec lui, ça peut se passer avec n'importe qui. C'est-à-dire que le point de départ, c'est que cet homme-là, un jour, a dit « Moi, j'en ai assez d'être comme ça. Ce que je vois dans la glace, c'est pas moi. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis autre chose qui est dedans, ça. » Parce que ça, c'est grand. Mm-hmm. Moi, je suis plus petit à l'intérieur. Et j'ai souvenir que j'étais comme ça dans le temps. Et je voudrais bien me retrouver.
Alors, il avait quel âge quand il fait ce constat ? C'est important, ça. On prétend qu'à partir d'un certain âge.
Alors là, je ne voudrais pas faire des indiscrétions.
Enfin, il avait plus de 40 ans, quoi.
Ah, ben, nettement.
Voilà,
ça s'est passé il y a 4 ans.
Plus de 60.
Ah oui. Ouais.
Je ne veux pas donner de date précise.
Non, mais je vous pose cette question parce que un des arguments, souvent, s'oppose à soi-même,
Il est trop tard. Non, c'est pas vrai. Ça, il est jamais.
60 ans, je ne vais pas m'y mettre, quoi. Ou à 50 ans.
Jamais trop tard. Moi, j'ai aidé des personnes à maigrir, mais pas uniquement à maigrir, parce qu'il ne faut pas me réduire
non,
à l'état d'un maigrisseur.
Je
ne fais pas que ça, et je ne pense pas qu'il faille faire que ça.
Non, mais je pense
parce que l'amaigrissement n'est qu'un aspect d'un ensemble.
Il suffit de s'arrêter de manger, puis on maigrit.
Oui, mais ça, c'est une...
L'amaigrissement, c'est le résultat.
Mais je peux dire que c'est une...
Pas forcément en bonne santé.
Bon, non, il ne faut pas dire des choses comme ça, M. Beckett. Ça, c'est les gens mal intentionnés ou mal éveillés qui disent des choses comme ça. Il faut maigrir en mangeant. Alors, si vous éprouvez... d'abord, il faut identifier les besoins, les nécessités et les motivations. Ça, c'est fondamental. On ne maigrit pas pour faire plaisir à sa femme, ni à son chef de bureau, ni à sa petite amie, ni à son médecin. Moi, je peux toujours vous dire, à quelqu'un d'autre, si vous maigrissez pas, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir du diabète, vous allez avoir des problèmes pulmonaires, etc. Bon, vous allez dire, oh ben oui, docteur, vous avez raison, vous allez faire un effort, déjà faire un effort... Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est pas engageant. Et vous allez commencer à faire quelque chose, mais vous le faites contre vous-même. Vous le faites pour me faire plaisir ou pour avoir un avantage. Ça ne va pas. Ça n'est pas la bonne motivation. La bonne motivation, c'est ce que m'a dit Karl. Il m'a dit, moi, j'ai vu un type dans la glace, je me suis dit, mais attends, mais qui est cet homme-là? Je le connais pas. On dirait un notaire de province, moi, je suis un grand couturier parisien. Alors, dépiautez-moi tout ça et rendez-moi comme je suis normalement. Et ben voilà, le jour où l'un de vous, messieurs, ou n'importe qui,
si on était,
je ne veux pas vous attaquer, gros, mais
non.
Si vous étiez gros, ce qui n'est pas le cas.
Moi, bien je vous ai demandé votre carte, il y a une raison.
Non, mais le jour où l'un de vous se regarde dans une glace et dit, mais c'est pas possible, possible, quelle gueule j'ai, quelle allure c'est j'ai, pas c'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça, c'est pas moi. Ben là, oui, ça, c'est la bonne motivation. Voilà. J'espère avoir été clair.
Très, très clair. Alors, donc, une fois qu'on a décidé de se changer soi-même, on passe à la suite. Alors, qu'on change quoi? On change son régime alimentaire, ouais, sa façon de vivre, c'est...
Oui, un peu tout. Un peu tout. Ce qu'il faut d'abord, c'est prendre conscience d'une chose, c'est que l'état dans lequel on est aujourd'hui, sur tous les plans, y compris surtout le plan physique, puisque c'est de ça dont on parle, est la conséquence de l'évolution de tout ce qu'on a fait depuis au moins 20 ou 30 ans. On va pas remonter jusqu'à la naissance, mais enfin au cours des 20 ou 30 dernières années. Donc, si aujourd'hui la gueule que vous avez, le poids que vous avez, l'allure générale que vous avez ne vous plaît pas, eh ben c'est que ce que vous avez fait au cours des 20 dernières années n'était pas convenable, puisque le résultat, c'est ça.
On dit à partir de 40 ans, on est responsable de sa gueule, ça veut dire quelque chose.
Ouais. Bon, on dit des tas de choses, on dit aussi qu'il faut choisir entre son cul et sa gueule. Bon, c'est d'autres histoires. Donc, si vous arrivez à la conclusion que ce que vous avez fait n'a pas donné le résultat que vous auriez souhaité, il faut donc changer votre façon de faire. Voilà, donc ça c'est clair. Alors, votre façon de faire, elle est composée de plusieurs choses. Dans le cas qui nous occupe, qui est maigrir, c'est principalement de ce que vous mangez. Donc, si ce que vous mangez vous convient pas, il faut changer de nourriture. Et puis c'est tout. Bon, puis pour le reste, le mode de vie, etc. Bon. Alors, il faut... C'est très simple. Si ce que vous avez mangé vous a pas convenu, c'est qu'il faut changer. Si vous changez, suivant mes bons conseils, et les bons conseils d'autres peut-être, enfin, en tout cas les miens, j'en suis sûr, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, donc vous allez déjà commencer par vous sentir mieux. Ensuite, vous allez maigrir, mincir, perdre du poids, enfin, bon, on peut dire ça comme on veut. Vous alléger, en tout cas. Et puis, vous allez être mieux. Bon, de mieux en mieux. À un moment donné, vous allez arriver à un poids convenable, où vous n'allez plus maigrir, et vous allez vous maintenir comme ça, à peu près. Alors là, si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, vous dites, chic alors, voilà. J'ai bien minci, maintenant on va pouvoir bien bouffer
repart,
comme avant. Ouais. Or, les mêmes causes provoquant toujours les mêmes effets, si vous mangez comme avant, vous regrossirez comme avant. Et on recommence. Voilà, c'est ce qu'on appelle le yo-yo. Alors, il y a des gars qui écrivent des livres sur le phénomène du yo-yo, je peux vous dire que c'est pas compliqué. Alors, si vous avez bien compris, eh ben, vous continuez à appliquer les principes généraux de ce que j'ai expliqué, et puis ma foi, ben, il n'y a pas de raison pour vous... Peut-être vous allez reprendre 2 kilos, ça va, ça vient, bon, mais ça c'est normal. Mais vous ne reprendrez pas les 40 kilos que vous avez perdus. D'ailleurs, Karl n'a pas repris... il a peut-être repris 2 kilos, j'en sais rien, mais pas...
Mais ça... Ça rejoint quand même une... ça amène un peu une question. C'est la question de l'importance du bien-être dans l'amaigrissement. C'est-à-dire que... Enfin, dans la forme physique. Je veux dire, par là, vous suivez un régime, vous maigrissez, pour ceux qui sont gros et qui sont mal à l'aise d'être gros, ouais. À un moment, ils en ont marre, donc ils ont envie de... Et quand c'est réussi, ils sont bien dans leur peau. À ce moment-là, le fait d'être bien dans sa peau, ça engage à célébrer, en quelque sorte, ce nouveau confort qu'on découvre. Ouais. Donc on a tendance à se dire, ça y est, je suis redevenu un beau jeune homme, je vais pouvoir... Bon, ça, c'est le premier inconvénient. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est ce qui crée le phénomène de yo-yo. Mais il y a aussi le fait que... au moment où on fait ce régime, on souffre.
Non.
Ah, pas voilà. Du tout. Parce que tous les régimes, beaucoup pas de régimes tout, sont
pas
difficiles.
Du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout, justement. C'est un point essentiel, ce que vous dites. Puisque on est parti pour une modification alimentaire pour 30 ou 40 ans. N'est-ce pas? Vous avez bien encore pour 30
ans. 40 ans au moins, oui, je crois que je vais essayer d'emmerder le monde encore pendant 40 ans, oui, ça c'est sûr. 97 ans, ça sera bien, là. Ouais. Je crois qu'ils me tueront un coup de poil à frire.
Donc, puisqu'on est parti pour une rectification, on a 40 ou 50 ans devant soi. Bon. si on recommence à manger comme avant, on regrossit, etc., et on va remaigrir, regrossir. Bon. Donc, il faut absolument éviter ça. Donc, il faut faire quelque chose qui soit tenable dans le temps. Or, il est absolument impossible de faire des régimes privatifs, des régimes déviés, c'est-à-dire où on supprime certaines catégories d'aliments, mm-hmm. et puis alors la plus somptueuse des conneries, qui est parfaitement à la mode depuis quelques années, qui a fait la fortune de certains marchands, c'est les protéines.
Les protéines, oui.
Bouffer des sachets de protéines ouais. comme si Quelle on horreur. Était des poulets qui Quelle bouffent horreur. Des graines, enfin c'est grotesque. C'est pas grotesque.
Faut mieux avaler des éponges.
Si on fait ça, oui, pourquoi pas. Si on fait ça pendant 15 jours et puis qu'après on passe à autre chose, bon, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui fait ça, par exemple pendant 2 ou 3 mois, qui va perdre peut-être 15 kilos. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange quoi? Il continue à bouffer des sachets pendant les 30 ans qui viennent? Ben non, merci. Bon, alors, donc ce qu'il faut, c'est épouvantable. Donc ce qu'il faut, c'est faire la part des choses, parce que je ne suis pas en train non plus d'accabler définitivement les protéines. Les protéines ont un intérêt, mais à la condition d'être manipulées d'une certaine façon, en petite quantité, etc.
Bon. L'intérêt principal des protéines, c'est que ça a fait disparaître le cannibalisme.
Oui, ça, c'est, beaucoup de missionnaires doivent leur survie aux protéines. En tout cas, les protéines, je les utilise, moi, aussi, mais je les utilise, je donne aux gens 2 sachets de protéines le matin, c'est des sachets de protéines au chocolat, au cacao, au cappuccino, et ça leur sert de petit déjeuner. Petit déjeuner, on ne sait jamais quoi bouffer, donc pourquoi pas 2 bols de protéines. Et au moins, c'est comme s'ils mangeaient un beefsteak.
Une demi-baguette beurrée avec du miel dessus. Non, c'est pas bon ça.
Une ou 2 tranches de pain complet avec du beurre allégé. Maintenant, moi, j'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit. Non, si les gens préfèrent manger des tartines beurrées avec du miel, ça, c'est leur affaire. Ça.
Mais s'ils viennent nous trouver.
Mais alors, il faut qu'ils viennent pleurer après.
Je bois du thé sans sucre. Hein,
oui, bien sûr. Donc, et vous mettez du miel sur vos tartines.
Oui, mais le miel, c'est pas vraiment.
Alors, je veux en finir avec cette nécessité de faisabilité à long terme. Mm-hmm. Bon. Pour ça, il faut que l'alimentation ne soit pas déséquilibrée, parce que si vous enlevez un des nutriments, alors par exemple si vous enlevez toutes les viandes, ou si vous enlevez tous les laitages, ou si vous enlevez tous les légumes, forcément vous déséquilibrez. Et les régimes dissociés, c'est des trucs comme ça, bancal, où on enlève un... Bon, tout ça c'est des foutaises. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut tout simplement choisir dans chaque classe d'aliments, donc dans toutes les classes, les aliments les moins caloriques. Et cela, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Donc, il suffit... on fait le contraire. Donc, il suffit de savoir que il vaut mieux manger n'importe quel poisson qu'une viande rouge. Donc, ça, c'est simple. N'importe qui comprend ça. Si tu manges n'importe quel poisson, ça sera mieux que de manger n'importe quelle viande rouge. Bon. Ensuite, de savoir que toutes les volailles sont bonnes, que tous les légumes sont bons, même les pommes de terre à l'eau, à condition d'excluer de ça tout ce qui est légumes secs, c'est-à-dire haricots, petits pois, lentilles, haricots secs, pois chiches, enfin ces trucs-là. Etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va fatiguer tout le monde. Mais, donc, on sait que... Oui, bien sûr. Voilà. On sait que ce qui est autorisé, ce qui est conseillé, on en mange tant qu'on veut, et ce qui est déconseillé, on n'en mange pas du tout. Voilà.
C'est-à-dire qu'on sort du dilemme tragique, tout ce qui est bon est mauvais, tout ce qui est mauvais est bon.
Comme disait l'autre, vous aimez ce qui est bon, c'est très très mauvais.
C'est très mauvais.
Mais bon, voilà encore, tout ça, je parle dans mon livre, voilà encore des idées qui sont, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Un petit gamin africain dont la maman a élevé en lui donnant à bouffer des criquets frits, il trouve que les criquets frits, c'est rien de meilleur. Essayez de manger des criquets frits, vous m'en direz des nouvelles.
Bon, après, donc tout ça, moi je crois que je serais capable de manger absolument n'importe quoi.
Non, mais
si c'est bien préparé.
Tout ça est totalement subjectif et je me suis longuement étendu là-dedans parce que Vous avez l'amaigrissement de l'adulte, bon, enfin, ça, on vient d'en parler. Mais vous avez la prévention, l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vos enfants, vos petits-enfants, qui sont élevés à la manière d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la maman n'a pas le temps de cuisiner, donc on prend des plats surgelés, à midi on mange à la cantine, quand le mercredi, je crois que c'est le mercredi, j'ai toujours des enfants maintenant, le gamin il dit « Papy, emmène-moi au McDo », etc.
Non, bon. Ça, il prend immédiatement une claque.
En plus, oui, bon, enfin, chez vous, mais il n'y a pas que chez vous. dans les écoles, dans tous les lieux publics, vous avez des distributeurs automatiques de machins coupe-faim, de trucs chocolatés, de lions qui vous rendent fort et intelligent, de Bounty et autres saloperies. Je ne sais pas si ça rend fort et intelligent, mais ce qui est sûr, c'est que ça rend diabétique
et obèse.
À 50 ans, enfin obèse d'abord, diabétique après. Ça, c'est sûr et certain. Donc, et puis j'en finis là, il y a la partie élevage, si j'ose dire, éducation, qui est absolument fondamentale pour l'avenir. Si vous ne voulez pas que vos enfants et vos petits-enfants soient taraudés par les diabètes, l'hypertension artérielle et toutes sortes d'horreurs, c'est maintenant qu'il faut prévenir les choses. Voilà.
Alors ce livre s'appelle, c'est un programme sympathique, je le répète, « Manger, maigrir, rajeunir ». Et puis ça vous permet, je le dis, de réaliser ce qui est notre rêve à tous, nous qui sommes genre, un petit peu enveloppés.
Bah oui, ressembler à la Lagerfeld, ça
ressembler à la Lagerfeld.
Voilà, oui, surtout si vous avez la fortune de la Lagerfeld.
Oui, oui, ça, je veux bien la prendre en
compte. Je vais venir, docteur.
Oui, Victoria, une question.
Une auditrice vous demande, quand on a perdu 40 kilos,
oui,
n'est-il pas nécessaire de faire de la chirurgie esthétique du ventre,
oui,
pour enlever le surplus de peau?
Alors, madame, je ne vais pas donner de rentrer dans des précisions qui risquent de m'entraîner devant les tribunaux, mais quand on a perdu 40 kilos, il se peut qu'on soit obligé de faire une intervention chirurgicale, mais il se peut aussi qu'on ait la chance d'avoir des tissus qui sont un peu, enfin, assez élastiques et que tout ça se remette plus ou moins en place. Et puis enfin, ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de son degré de tolérance, et il y a des personnes qui, ça dérange pas d'avoir le ventre qui plisse un peu, alors que d'autres, ça les dérange. Ça dépend ce qu'on fait avec son ventre, voilà, exactement, sans parler du reste.
Si c'est un homme de... c'est un homme de 57 ans qui perd 40 kilos.
Oui.
Il va sur la plage avec un string, évidemment, ça va.
C'est pas terrible.
Ça va pas être terrible. Mais enfin, s'il porte comme moi un maillot de bain tricoté à manches, c'est tout à fait supportable.
Oui. Ou alors s'il reste habillé.
Chez lui,
comme certains je connais, en smoking avec un col dur, ma foi, peu importe que ça. Ah ben, il va pas sur les plages.
Merci, docteur Audrey. Alors, une autre question.
Nous, c'est un auditeur qui vous dit, est-il possible d'associer un régime anti-cholestérol avec ce régime amaigrissant?
Mais bien sûr, madame, ce régime amaigrissant est un régime anti-cholestérol par essence. Donc, parce que toutes les origines de cholestérol sont des origines animales de mammifères, puisque la graisse des mammifères passe directement dans notre sang, puisque les mammifères sont nos cousins, nous sommes de la même famille.
Oui, enfin, je ne suis pas dans ma famille, en tout cas.
Oui, mais si, vous en avez. Et les poissons ne sont pas de notre famille, et les légumes, les salades et autres ne sont pas de notre famille non plus. Donc, les poulets non plus. Ben, madame, les poulets, c'est des oiseaux. Donc j'ai dit les poissons. Ah oui, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié les oiseaux. Alors, j'en viens à ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous éradiquez de votre alimentation tout ce qui apporte, tout ce qui vient des mammifères, leur viande, leur beurre, leur lait, etc., sauf quand c'est dégraissé, le lait dégraissé, donc vous mangerez...
Vous pouvez en avoir de l'eau, alors.
Vous mangez, non, pas du tout, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé, puis ça vous apportera du calcium, alors que si vous buvez du lait de soja, ça vous apportera rien du tout, vous n'êtes pas de la famille du soja.
Non, bah, bon. Je le savais.
Non, ça se verrait. Alors, j'essaye d'en finir. Lorsque vous mangez, donc vous éradiquez ces graisses qui viennent des mammifères. Si vous mangez un poisson gras, bien gras, comme des tranches de saumon fumé, bon, si vous mangez du canard, si vous mangez, vous cuisinez à l'huile, tout ça est gras. Mais tout ça ne vous donnera pas un poil de cholestérol.
C'est formidable.
Par contre, si vous en mangez conséquemment, ça vous fera grossir. Ouais. Ça vous empêchera de maigrir. Mais vous pouvez très bien combiner les deux, c'est-à-dire perdre du poids et baisser votre cholestérol. Je voudrais dire un dernier mot, oui. Peut-être je peux. Oui.
Oui, vous avez le droit, vous nous avez porté plein de bonnes nouvelles. Donc
c'est bien, c'est sympa. Le troisième volet de cette histoire, manger, maigrir, on en a parlé, mais rajeunir, on n'a rien dit là-dessus. Alors, qu'est-ce que rajeunir vient foutre dans cette histoire? Eh bien, en mangeant, vous pouvez manger des choses qui font rajeunir. Enfin, rajeunir, c'est pour rire. En réalité, ralentir le vieillissement en apportant des antioxydants. Or, je vais la jouer brève, les antioxydants sont des substances qui freinent l'oxydation des cellules. Un bout de ferraille qui est dans votre jardin, il rouille, il s'oxyde, et puis il pourrit, puis il disparaît. Et bien vous, c'est pareil. Vous vous oxydez, vous vous abîmez, et puis ça vous pousse à la fin.
Mais
si vous prenez des antioxydants, oui, ça va très loin. Si vous prenez des antioxydants, bon, si vous peignez votre bout de ferraille avec du rustol ou un truc comme ça, ben il rouille pas et puis il dure plus longtemps. Eh bien, si vous vous prenez des antioxydants, vous ralentissez le processus et vous resterez frais, en possession de plus de moyens le plus longtemps possible. Alors, d'où ça sort? Bon, je fais très bref. Les principaux antioxydants viennent des plantes colorées, c'est-à-dire des carottes, des tomates, de la papaye, etc., etc. Bon, la papaye, sa sainteté, qui est pas très fraîche. Non, c'est pas dit-on, c'est sûr. Et très fatigué, hein. C'est pas une grande nouvelle que je vous apporte. Non. Mais enfin, il est toujours là. Et certainement qu'il doit une partie de cette vitalité à la papaye fermentée qu'il prend. C'est de la papaye fermentée, c'est pas de la papaye, c'est pas du jus de papaye, hein. Donc, il y a des extraits de tomates, des extraits de carottes, des extraits d'un tas de choses, et puis d'autres choses encore, qui sont les antioxydants. Eh bien, si votre alimentation est riche en antioxydants, vous améliorerez vos scores. Maintenant, il y a des compléments alimentaires, et que j'ai mis au point, et qui sont largement expliqués dans ce livre, qui permettent de complémenter tout ça. Voilà.
Merci beaucoup, Dr. Audrey. Alors, c'est votre moi. Livre, La méthode du Dr. Audrey, Manger, maigrir, rajeunir, et c'est paru aux éditions Delville Santé, ça se trouve dans toutes les librairies.
Toutes les bonnes,
très bien.
Snack toutes les bonnes et librairies.
Voilà. Merci beaucoup.
C'est moi.
On va peut-être faire un concours avec le marquis, on va essayer.
Oui, j'ai l'adresse du docteur. Bon.
En attendant, vous allez nous parler un petit peu peut-être de vos aventures récentes.
Je suis très content d'avoir retrouvé.
Alors, attendez, on va laisser la place à la musique.
En prendre trop, parce que quand j'ai un assassinat à faire, je voudrais 5 bonnes minutes.
Oui. Alors, qu'on a entendu la veuve joyeuse, vous pouvez assassiner.
Voilà, donc je vais commencer par une nouvelle qui m'a bien réjoui, que je connaissais depuis un petit moment, mais qui maintenant, ça y est, tout le monde la connaît. Édouard de Rothschild à 33% du journal Libération. Alors, évidemment, pour expliquer tout ça, on a dit, ah ben oui, mais c'est le gauchiste de la famille. Enfin, c'est quand même le fils du baron Guy et de feu sa maman, la célèbre Marie-Hélène de Zuylen de Nievelt. Et puis, il est président et donc successeur de Jean-Luc Lagardère de France Gallo, qui était la société d'encouragement pour les races de chevaux en France. Alors, comme gauchiste, on fait mieux. Et je pense au cher baron Guy qui commence à tutoyer le centenaire. Il doit bien rigoler dans sa barbe de voir son fils être, disons-les, propriétaire de Libération. Lui que M. Morois avait convoqué pour lui signifier qu'il lui nationalisait sa banque. Quelle belle revanche. Alors voilà, maintenant je vais m'adresser à des dames. Je vais commencer par un salut affectueux et je présente des vœux à ces dames qui ont cru se reconnaître lorsque j'avais fait un article sur l'Institut de la Maison de Bourbon où je disais que M. le duc de Beaufremont était entouré de dindons et de pintades. Mais il y a des dames qui sont des grand-mères, donc ça veut dire elles sont plus toutes jeunes, et qui ont conservé suffisamment de fraîcheur d'esprit, d'intelligence et de gentillesse pour avoir pris ça à la rigolade. Et maintenant, ce groupe de dames qui habitent à Versailles ou alentour, quand elles se retrouvent ou quand elles se téléphonent, ben, ce sont les pintades. Et j'ai un bon copain depuis 40 ans qui les fréquente, parce qu'il est monarchiste, donc il les voit souvent. Il tient une boutique, une librairie technique à côté du Libre Journal. Je le vois de temps en temps, il sert d'agent de liaison entre ces dames et moi. Alors je les salue affectueusement, je leur présente mes vœux, je leur dis qu'elles sont très belles, que je les aime comme ça, et qu'elles continuent le plus longtemps possible à garder leur fraîcheur d'âme et leur envie de rigoler. Et que si un jour, par hasard, je fais de la peine, ben, qu'elles me pardonnent, parce que pour faire rire, il faut être méchant. C'est très difficile de faire rire en étant gentil. Alors on peut être méchant, agaçant, vexant, mais faire vraiment de la peine, ça me gêne. Alors en revanche, maintenant que j'ai dit des gentillesses à des dames, je vais m'adresser à une dame. Et je veux dire à cette dame, qui est nettement plus jeune que celle que je viens de citer, mais elle est forcément moins charmante, puisqu'elle vit dans un bocal de vinaigre. C'est une dame qui m'a jadis manifesté une passion envahissante, mais correcte. Puis je l'ai larguée, parce que, comme elle était d'une constante méchanceté, et qu'à un moment, elle a commencé à attaquer des gens que j'aime beaucoup, qui me sont chers et qui ne méritaient pas, je me suis esquivé sur la pointe des pieds, sans bruit. Et depuis ce temps-là, évidemment, elle me poursuivait de sa haine. Et qui, ça avait semblé se calmer, jusqu'au moment où j'ai connu un succès d'évidence dans le Libre Journal. Alors maintenant, cette dame, quand elle aperçoit un vendeur du Libre Journal, ou pire encore, parce que Patrick prend des risques, mais un lecteur du Libre Journal, elle lui tombe dessus en disant, mais il faut jeter ce journal, il ne faut pas lire ce journal, il y a un schismatique qui est écrit dedans. Très bien.
Alors, le schismatique, c'est vous.
Alors, le schismatique, c'est moi. Je voudrais dire quand même que c'est pas très grave, parce que cette dame, depuis des lustres, a tellement déconné qu'elle n'est plus crédible. Mais ce qui me chiffonne, justement, c'est qu'elle agresse le Libre Journal, et ça me gêne un tout petit peu. Alors donc, le schismatique, c'est moi. Le faux Aristo, qu'elle dit, c'est moi. Ma bague est creuse, tout le monde le sait. Je ne suis pas marié, tirez-en les conclusions que vous voulez. J'ai perdu mon père et ma mère, hein, mais bon.
Voilà. Vous n'avez rien fait pour les empêcher de vous.
Mon père, c'est l'héritage, c'est un peu long. Mais alors, bon, cette dame, elle peut continuer à blablater, ça me dérange absolument pas. La seule chose, ce qui m'agace un peu, c'est l'histoire de qu'elle attaque les gens qui lisent le Libre Journal. Je voudrais quand même lui dire qu'il faut qu'elle ouvre un dictionnaire et qu'elle révise un peu, qu'elle se renseigne dans sa famille. Schismatique, c'est parce qu'elle croit. Je rappelle quand même à nos auditeurs que, comme j'ai la double nationalité, que je suis franco-espagnol, c'est quand même l'Opus Dei qui m'a invité aux cérémonies de canonisation de Saint José Maria Escrivá de Balaguer, que j'étais assis dans un fauteuil à 12 mètres du pape, et il n'y avait pas en principe de tribune réservée aux schismatiques. Que les choses soient bien claires. Voilà.
Quand vous dites la double nationalité franco-espagnole, c'est en fait...
J'ai un passeport espagnol, un passeport français.
Oui, mais quand franco-espagnol, c'est encore plus espagnol.
Ah oui, oui, et puis du moment qu'il y a le mot franco, ça me plaît bien.
Donc voilà. Il grandira, car il est espagnol.
Voilà.
Il n'arrête pas de grandir.
Alors, pour dire à cette dame, elle peut continuer à raconter tout ce qu'elle veut, ça m'est égal, mais ça me gêne un peu à propos du Libre Journal. Je voudrais simplement lui dire une chose, qu'elle soit tout à fait rassurée. Les punaises, fussent-elles de sacristie, demeurent des punaises, mais comme ce sont des créatures du bon Dieu, comme les serpents, je ne l'écraserai pas.
C'était notre minute de gentillesse. Bon, alors donc, quoi d'autre?
On peut faire un concours, s'il y en a qui ont deviné, qui sait, ils ont gagné un abonnement au Libre Journal.
Bon, si vous avez deviné, vous téléphonez.
Alors, ce que je peux vous dire d'autre encore, c'est que sur au moins 4 ou 5 numéros va s'étaler dans le Libre Journal le récit du voyage en Chine, qui a été un voyage qui était vraiment une vraie réussite, et puis vous verrez pourquoi. Mais il y avait dedans quelques personnes, comme il y a toujours, un petit peu spéciales, et alors là, évidemment, sans les citer, je vais raconter d'une façon caricaturale les pérégrinations de ces personnes.
Madame Audrey, qui est là-bas, qui rit à son...
Oui, Madame Audrey, elle a été très gâtée dans mon papier. Je dis que le docteur était suité d'un plus joli oiseau des îles qui soit. Donc ça
c'est
va bien.
C'est charmant.
Voilà. N'est-ce pas, cher Mimi?
Alors, donc, vous vous êtes retrouvé en Chine, ça, j'en reviens pas, quand même.
Et vous êtes obligé de lire le Libre Journal, maintenant, pour connaître les aventures du docteur et les filles.
Le premier qui dit le monde est petit a gagné un cocktail en or massif. Alors, vous avez des annonces à nous faire pour finir.
Quelques petites annonces. Samedi prochain, 29 janvier, de 15h à 18h30, Jean Madiran dédicacera La trahison des commissaires et le général Jean Duverdier dédicacera De la non-violence à la force légitime. Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris, 5e. La mère agitée nous annonce que mardi 8 février, grande soirée, mardi gras, avec le chœur Montjoie-Saint-Denis, chez donc la mère agitée, 21 rue Campagne Première, Paris 14e, métro Raspail. Téléphone pour vous inscrire, 01 43 35 56 64. Alors, un message pour Serge de Bekatch. Effectivement, l'éléphant est irréfutable. Ah. Mea culpa, nous dit cet auditeur, et toutes mes excuses à Serge de Bekatch.
Mais vous êtes tout pardonné. Si vous aimez Vialat, vous êtes pardonné.
Pouvez-vous nous redonner le nom du docteur, ainsi que les références du livre? Mais oui. Donc, ça s'appelle « La méthode du docteur Houdret », j'appelle H-O-U-D-R-E-T, manger, point d'exclamation, maigrir, rajeunir. C'est aux éditions Delville, D-E-L-V-I-2-L-E, santé, et le prix, 18,95 €.
Quand on voit la minceur d'Houdret Burn.
Oh, c'est amusant, ça.
Oui, vous savez remonter ça.
Et on nous demande de redonner les coordonnées téléphoniques de M. Rondeau. Alors, son numéro personnel, c'est 01. C'est celle de Pierre Descaves. J'ai l'internet. jean-pierre.rondeau2@wanadoo.fr.
Et le numéro de téléphone, c'est 01 30 54 93 98. 01 30 54 93 98.
Et puis alors, attends, on nous a envoyé aussi France Résistance, un site internet www.france-resistance.com. Ça, c'est des cas.
Et en plus qu'on en parle, je rappelle que les jeunes gens qui veulent combattre efficacement et d'une façon originale et drôle contre l'adoption de la Constitution, donc ils vont militer pour le non à la Constitution européenne, recherchent des infographistes et des webmasters flash, c'est-à-dire spécialistes de la technologie du flash. On peut les contacter à euro2005@hotmail.fr. Alors un auditeur me dit arrobas, il faudrait dire arrobas, parce que c'est un mot espagnol. Je ne crois pas, je crois que l'arrobas c'est tout simplement au A, ce que l'esperluette est au ET. C'est-à-dire l'esperluette, c'est une espèce de petit 8. Et l'arrobas, c'est un vieux signe qui était utilisé d'ailleurs par les moines copistes eux aussi. Et je n'ai pas l'impression que ce soit très espagnol, mais si vous voulez, disons arrobas.
Il nous dit qu'on peut aussi dire A entouré. Moi, c'est un peu compliqué.
Ouais, non, mais arrobas, c'est très bien.
Arrobas, voilà. Tout le monde connaît.
Et puis je rappelle pour finir que, et là vraiment je vous le recommande parce que c'est une voix magnifique, Loredana Bernardini, Elena Passera et Céline Erican, pianiste, donneront un concert cocktail le dimanche 30 février à 18h30 à bord de la péniche Daphné. L'entrée est de 15 €. Vous entendrez des tas de choses sympathiques, des chansons italiennes, des chansons napolitaines, des airs d'opéra et des valses de Chopin. Et ensuite, il y aura un petit cocktail à bord de la Daphné. Pour réserver, il faut téléphoner le plus vite possible. Il demande de téléphoner avant le 28 janvier au 01 30 36 18 88. 01 30 36 18 88.
18h30
le 30 janvier, c'est ça. Voilà.
Je vais dire un mot rapide sur le Libre Journal. Cet après-midi, il circulait à l'Assemblée nationale parce qu'il est question d'un député socialiste dans ma rubrique, et tout le Parti socialiste à l'Assemblée lisait cette page, tant pis pour les autres. Et hier soir, au Théâtre des Deux Arts, on a utilisé quelques lignes de ma page, comme ça, au pied levé, dans une parodie sur Giscard d'Estaing. Voilà.
Mais dites-moi, je vais concevoir une jalousie féroce. Merci, ma chère Marquis. Merci encore, docteur. Merci, Victoria. Et merci à Franck pour avoir dirigé avec cette maestria la réalisation de cette émission. Je vous dis, sauf erreur de ma part, à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz, 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 janvier 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 27 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.